Émission On en jase, Boulevard 101, ton émission d'actualité du midi. C'est de midi à 14h. Ça suit à chaque jour, du lundi au vendredi, le point de Max avec Max Larouche. Et ça précède le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. On vous remercie grandement d'être à l'écoute. On a bien du plaisir à faire ce show et à vous informer. 418-971-1021, c'est un fun qu'on a aussi de lire vos textos et de réagir avec vous. 418-780-1021, c'est le numéro pour nous joindre en studio. Tout à l'heure, il va venir faire son tour. Mathias Turcotte, on l'a envoyé, Pascal Cévin, une conférence de presse sur le système de la santé qui change encore. Là, Mathias, je le regarde, là, c'est comme s'il y avait le cerveau éteint. Tellement, il a fallu qu'ils comprennent cette structure, nouvelle structure, retour à une structure de CLSC. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il a compris. Va essayer de venir tout nous expliquer ça. Faites-vous en pas. Après ça, on va voir le doc Pascal Renault qui, lui, va être capable de nous expliquer la structure dans structure qui est dans l'autre structure. Parce que là.
Il va tenter de nous la vulgariser, mais moi, j'ai hâte aussi de savoir s'il la comprend bien et il pense que ça va fonctionner.
Bien, c'est ça, parce c'est que ça, là, t'sais. On a le ministère de la Santé qui est une structure. Ouais. Dans cette structure-là, on a Santé Québec. Dans Santé Québec, on a une autre structure qui est le CIUS. Puis là, bien, on déterre comme en 94-95 avec la réforme Rochon, une réforme qui a super bien fonctionné dans le domaine de la santé. C'est depuis ce temps-là qu'on est en marde. Bien là, on redéterre les CLSC. Fait qu'on rajoute encore cette structure-là. Puis là, on a déjà la structure des GMF. Les cliniques de médecins de famille. Puis là, après ça, hein, on a le patient. Puis on se demande comment ça, le système de santé coûte cher.
Mais attends, peut-être que ça va fonctionner. Puis peut-être que ça va permettre de désengorger certains endroits parce que c'est ça l'annonce
peut-être.
Aujourd'hui. C'est effectivement le grand retour de la mission des CLSC territoriaux. C'est ce qu'a appris le bureau parlementaire du Journal de Québec. On veut instaurer ce nouveau modèle d'affiliation-là territoriale pour le patient qui sera attaché au CLSC. Ça veut dire qu'on veut rapprocher les soins et leur gestion des lieux de résidence. Ce qu'on avait un petit peu, moins bien géré dans les dernières années. Ouais. Notamment, on veut le déploiement de la plateforme Votre Santé. C'est là que ça vient mêlant. C'est une nouvelle plateforme encore. Je pense que pour les gens issus
on avait...
là, okay, la structure
de
santé,
on a
ici,
le guichet d'accès première ligne, le GAP. Là, on va avoir Votre Santé?
Votre Santé.
Votre Santé.
Application, puis ça doit offrir un accès
qui est c'est fait par le gouvernement. Ça va toujours bien quand le gouvernement se lance dans le numérique.
Là-dessus.
Moi, on dit que je suis cynique à midi.
Mais ça serait au bout de nos doigts qu'on serait capable d'avoir de l'information puis essayer de prendre des soins puis des services là, en termes de rendez-vous. Mais à suivre.
On va tout avoir les explications tantôt de Mathias, qui est en train de démêler ça dans son cerveau. Tu es un étudiant encore à l'Université Laval, devrait être capable de démêler tout ça. Il est encore cognitivement très allumé. Plus que moi qui est rendu à 46 ans.
Arrête ça, faut entretenir ça. Hein. Peu importe les études ou pas, moi je te l'ai toujours dit, mon beau-frère c'est une des personnes les plus brillantes et connaisseuses que je connaisse, moi. Mm-hmm. Puis c'est pas parce qu'il a fait de longues études, c'est parce qu'il est curieux.
Ouais. Julie nous écrit et continue à réagir au 418-971-101. Hey, pourquoi avoir fait sauter si elle essaie si c'était pour les ramener? Bonne question. BLVD.fm, c'est la web radio. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. Haut-parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD, on arrive dans vos oreilles. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir voir nos belles faces en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube. On a des bons moments qui s'y retrouvent de tous nos shows de notre programmation que je vous ai mentionné à chaque jour. Pascal, on vient de parler de cette annonce-là, ce retour en arrière. Ce « Back to the future » en 1994-95 en santé. Sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a à suivre avant qu'on parle à nos amis Farnell et Lambert?
Bien, ça, c'est sorti quand même du côté du Journal de Québec, puis ça me tente de faire la lumière dessus, c'est les ados qui vapotent. Hein. Mmh! On a eu des données qui sont alarmantes. Les ados qui peuvent inhaler jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour en nicotine juste avec le réflexe de porter la vapoteuse à leurs lèvres.
Ça n'a aucun sens.
Alors, il y a des experts qui ont peur de ça, qui craignent cette nouvelle génération de fumeurs-là, qui sont dépendants à la nicotine, parce que oui, il y a cette dépendance-là. Et en plus, ben, les jeunes sont moins actifs qu'avant. Fait que là, ils font des corrélations, puis ils disent « Wow, là, ça se peut que ça soit vraiment problématique. C'est un long dossier que le Journal de Québec a offert. Il y a une loi. La loi fixe désormais à 20 mg par millilitres la quantité de nicotine dans les capsules de liquide à vapotage. Là. Puis ça, c'est environ un paquet de cigarettes par capsule. Mais il y en a qui passent rapidement. Puis malheureusement, bien, ça se vend partout. La vapoteuse peut avoir l'air d'un surligneur, peut être dans l'étui à crayon. Tu sais, il y en a là, qui ne reculent pas devant la créativité pour pas que ça paraisse que ce soit une vapoteuse. Ça crée beaucoup de problématiques.
418-971-101, je veux vous entendre là-dessus. Je veux surtout vous lire, là, parce que c'est par texto. Avez-vous des ados à maison? Il y en a-tu qui vapotent? Ça vous fait-tu peur? Moi, je suis très content que mes gars soient accrochés au sport parce que je pense que ça les éloigne justement de ça. Mais sinon, si c'était pas des petits sportifs, j'aurais vraiment peur parce que c'est tellement facile d'accès.
Puis rappelle-toi, au début, quand les vapoteurs sont arrivés, plusieurs qui disaient « Ah, ça va aider pour ceux qui veulent arrêter la cigarette. Hein? » Ouais. Ça va être comme la transition. Avant, t'avais la grosse patch
ben
qui colle
sur
ton corps. Ou encore la gomme. Puis là, on était avec la vapoteuse.
Un de mes chums qui fumait, puis là, il avait sa patch, mais quand il sortait d'un bar, il enlevait sa patch, il se remettait à fumer. Ça avait pas de sens.
Mais c'est un peu ça, finalement. Ça crée aussi des dépendances. C'est le nouvel objet cool là, dans les dernières années. Puis il y en a qui l'avaient vu venir, mais oui, c'est aussi nocif pour les poumons que la cigarette. Les dépouilles des deux pilotes d'Air Canada décédés dimanche dans une collision sur une piste de l'aéroport à LaGuardia à New York, ben, ont été rapatriés au Canada. Le cercueil du copilote Mackenzie Gunter qui a été accueilli à Ottawa, puis celui du Québécois Antoine Forêt aussi qui a été transféré vers Montréal. Ce sont des heures assez difficiles. Je pense que tout le monde est encore très bousculé par ça. À Montréal, Trudeau, il y a des centaines de pilotes et membres du personnel qui ont rendu hommage en bord de piste. C'était très touchant à voir. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui revient dans l'actualité parce que là, il poursuit la ville pour des millions de dollars. Mais on ne sait pas grand-chose, Jeff. On a essayé de parler au maire actuel de Laval. On a eu une prise de parole qui nous a été donnée par son attaché de presse. On va aller parler de ça en profondeur plus tard, mais en gros, c'est une couche d'indécence qui s'ajoute à ce dossier profondément choquant pour les Lavallois. Mm-hmm. C'est une partie de la communication qu'on a reçue.
On avait déjà fait une entrevue avec Stéphane Boyer. À ce moment-là, on expliquait qu'il devait faire un chèque d'un million de dollars à Gilles Vaillancourt pour qu'il paye des impôts au gouvernement fédéral. Ça avait fait la manchette, ça avait vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et le gouvernement fédéral s'était positionné en disant « Non, on va faire comme le Québec. Québec, on n'exigera pas à M. Vaillancourt son paiement d'impôts. C'est de l'argent qui va rester à Laval. » On le rappelle, c'est 5 millions de dollars que le maire Vaillancourt a volé aux citoyens de Laval. On a réussi à remettre la main sur ces 5 millions-là. Et là, on l'investit dans des organismes à but non lucratif.
Quand même, façon intéressante de gérer.
Fait que ça me tente pas que Vaillancourt ait une coupe de millions dans ses poches. Ça me tente que ça reste dans les organismes.
Non, puis la presse en parlait, là, le média. Là, on précise que seuls 13 des 39 paragraphes qui sont partiellement lisibles. Donc, c'est très difficile de comprendre les doléances de Vaillancourt. Puis, il semble pas être très gêné de ses doléances. Cet homme-là, il veut juste pas que ça se ramasse dans les médias, on dirait.
Je félicite Audrey par texto. J'ai arrêté de fumer la cigarette. Ça fait 6 ans et demi. La vapoteuse a été ma béquille. Mais j'ai réussi à arrêter, voilà, 2 ans. Good job, Audrey.
Oui, très, très. Très, très bon. En tout cas, c'est difficile. Hein? Moi, j'en connais autour de moi qu'ils ont essayé 36 fois.
Ah oui.
Ils sont retombés.
C'est vraiment, vraiment, vraiment.
Je pense
vraiment
que ça lié avec le stress, puis c'est drôle, on a plein de stress maintenant.
C'est ça.
Hey, je termine avec ça, puis on fera un bulletin complet plus tard. Mais l'Iran qui défie Trump, surprise. Maintenant, on exhorte les civils du Moyen-Orient à s'éloigner des Américains. Pourquoi? Ben, ils seront ciblés, là, clairement. On a appelé aujourd'hui les civils à se tenir à l'écart des forces américaines au Moyen-Orient. Ça accentue les menaces face à Israël et Washington. Moins d'un mois d'une guerre qui déstabilise l'économie mondiale. Mais là, clairement, il y a encore des attaques à prévoir parce que ça n'arrive pas à ce que Donald Trump veut. Il négocie pas avec l'Iran. Clairement, il négocie seul, même s'il veut nous faire comprendre le contraire. Et les lâches forces américano-israéliennes, c'est comme ça que décrivent les forces américano-israéliennes l'Iran, tentent d'utiliser des sites civils et des innocents comme boucliers humains. Fait qu'on est en train même de monter la population iranienne contre les Américains et les Israéliens.
Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, sera avec nous aux alentours de 13h10, 13h15 pour parler de ceci. Du lundi au jeudi à l'émission On en jase, c'est le caucus avec Antonine Niaccarini. Et le vendredi, c'est le segment discussion avec Farnell Morisset et Lambert Drainville. Messieurs, comment allez-vous?
Ah, ça va bien, ça va bien. Il fait beau, il fait. Comment ça fait ça?
C'est vrai. Hein? Lambert, quelle est la température dans le coin de Montréal?
Excessivement beau. C'est, ça fait vraiment du bien.
Ah oui, 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 oui. Après toute la neige qu'on a eue cette semaine, le verglas, etc., ça fait du bien le soleil. Farnell, tu es un spécialiste juridique?
Je suis avocat membre du barreau de New York, oui.
Et voilà, avocat membre du barreau de New York. Et là, dans les médias, c'est ressorti en trompe là, dans la dernière heure, les fameux délits d'initié autour de Donald Trump, parce que un peu avant qu'il fasse des annonces que je vais aller attaquer l'Iran, je négocie avec l'Iran, il y a des gens qui transigent des actions puis qui font beaucoup d'argent. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un délit d'initié?
rapidement, un délit d'initié, puis là, je vais parler en termes juridiques des États-Unis parce que c'est ça les lois qui s'appliquent ici, là. C'est quand quelqu'un qui est en possession de, le terme exact, c'est « material non-public information », c'est-à-dire de l'information matérielle qui n'est non publique. Mm-hmm. Donc, de l'information qui pourrait avoir un impact sur les prix des choses qui sont transigées dans les marchés et qui n'est pas disponible au public encore. Quelqu'un qui est en possession de cette information-là et qui fait des transactions financières, qui fait des transactions dans des achats d'actions ou d'obligations, ce genre de choses-là, avant que l'information devienne publique, dans le but de s'enrichir, ça, c'est un délit d'initié et c'est illégal, c'est un crime.
Genre, une compagnie va super bien, elle commence à pas bien aller, quelqu'un est au courant, ouais, décide de vendre ses actions quand ça va super bien parce que dans les prochains mois, ça risque de crasher. Ce serait un délit d'initié?
Ça, ce serait un type de délit d'initié. Il y a un encadrement très strict autour de, par exemple, les PDG ou les cadres de grandes compagnies qui ont accès régulièrement à cette information-là quand ils ont droit de vendre ou acheter des actions de leur compagnie ou de leurs compétiteurs parce que potentiellement, justement, ils ont constamment accès à ce genre d'informations-là.
Genre un politicien qui va donner un projet à une entreprise quelconque dans les prochaines années ou prochains mois, puis qui décide de mettre et d'acheter à titre personnel des actions dans cette entreprise-là qui va prendre de la valeur, ce serait aussi un autre genre de
oui,
délit d'initié.
Et c'est un énorme fléau aux États-Unis. Je veux dire, surtout les sénateurs et les gens du Congrès qui, eux, ont le droit aux États-Unis de transiger dans des actions individuelles, là, chose qu'au Canada, c'est pas permis aux politiciens. Ce qui veut dire que potentiellement, par exemple, il y a des élus qui sont sur des comités de la défense qui vont savoir, bon, ben est-ce qu'on va donner un contrat à telle compagnie ou telle compagnie qui, ayant accès à cette information-là, eux, parce qu'ils sont des politiciens, ont le droit d'agir là-dessus tant qu'ils dévoilent en dedans de 4 jours c'est quoi qu'ils ont fait comme transaction. On s'entend qu'en 4 jours la bourse va bouger beaucoup, là. Alors ça, c'est un énorme problème aux États-Unis, ça attire énormément de critiques, mais ce qui se passe présentement, c'est que ça semble de plus en plus risqué qu'il y a des gens à l'intérieur de l'administration Trump qui ont accès privilégié aux décisions un peu erratiques de M. Trump, qui vont faire bouger les marchés et qui peuvent potentiellement agir, prendre des positions qui vont être avantagées par les décisions qui vont sortir quelques minutes avant. Puis là-dessus, je veux prendre un petit 2 secondes parce que je me souviens, il y a à peu près un an, j'étais aux ondes de la station Sœur, week-end, juste de l'autre bord. Et puis, c'était le jour où les fameux tarifs étaient supposés être imposés au Canada, oui, au Mexique, la première journée. Puis j'étais en ondes le moment même, juste avant que Donald Trump annonce un sursis de 30 jours. Et puis j'ai dit, ah, je pense qu'on va avoir le sursis de 30 jours parce que moi, pendant que tout le monde regardait les annonces de Truth Social, moi, je regardais la bourse. Mm. Puis à la bourse, les prix futurs en aluminium, en pétrole et en bois venaient de chuter, ce qui donnait l'indication qu'il y avait des gens qui savaient que ça, c'est les exportations primaires du Canada vers les États-Unis, qu'il allait continuer à en avoir à bas prix parce qu'il n'y aurait pas de tarifs. Alors, les prix ont tombé. 5 minutes avant que l'annonce soit officielle, imagine, les marchés le savaient. Il y a des fortunes qui se sont faites avec ça.
C'est ce qui s'est produit avec l'Iran aussi, là, 4 minutes avant le discours de Trump pour dire « on négociait avec l'Iran, hop, il y a eu plein de transactions au niveau des actions des compagnies pétrolières ».
Et c'est le genre de choses qui mine énormément la confiance du public dans et le politique et les institutions financières, puisque je dis toujours aux gens, c'est si vous pensez que vous pouvez faire fortune en faisant du day trading, en échangeant, en étant très actif à la bourse, en essayant de prévoir comment les actions vont bouger d'un bord ou de l'autre, là, vous êtes en compétition avec ces gens-là, puis eux autres vont toujours gagner.
Les démocrates commencent à mettre énormément de pression. Est-ce qu'il va falloir attendre après les élections de mi-mandat si Trump perd une ou les deux chambres pour un déclenchement d'enquête publique? Ça se peut-tu ou on va tolérer ça parce qu'on est plus lousse aux États-Unis?
C'est le genre de situation qui va juste éclabousser tout le monde s'ils font une enquête publique. Il y a de la boue à lancer partout.
Personne qui veut d'enquête publique.
Malheureusement, je veux dire, c'est un énorme problème et je crois pas que la conjoncture politique actuelle est capable de gérer ça aux États-Unis.
Un système corrompu, Pascal, qui veut pas se corriger.
Ben, moi, ce qui me surprend le plus là-dedans, c'est que Donald Trump s'est fait élire en plaidant qu'il est là pour le peuple puis qu'il voulait pas, encore une fois, que le peuple se sente trahi économiquement puis se fasse avoir et tout ça. Il commence à flipper dans une autre façon de faire, mais qui résonne comme étant « on profite de vous aussi ». Là.
Il y a beaucoup de façons. En tout cas, je veux pas aller jusqu'à accuser qui que ce soit comme ça, parce que c'est quand même criminel puis j'ai pas de preuves. Là. Mais je veux dire, il y a ça.
Dans les spéculations.
Il y a tu sais, Donald Trump qui a aussi lancé sa crypto-monnaie qui a explosé en valeur depuis qu'il est à la présidence. Il y a tellement de choses vraiment, vraiment bizarres là-dessus. Mais malheureusement, la conjoncture politique n'est pas facile.
Exactement. On revient plus près de chez nous et on parle de loi sur la laïcité. C'était 4 jours d'audience devant la Cour suprême. On écoute ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, en pense.
Et c'est la différence québécoise qui ne peut plus s'exprimer démocratiquement lorsque le régime fédéral, par son parlement, dans le cadre duquel on a juste 20% des voix, ou les tribunaux fédéraux, qui sont des nominations de ce régime-là, renverse notre volonté démocratique dans un vrai parlement qui a fait son travail. C'est pas comme si on n'a pas débattu de laïcité au cours des 15 dernières années.
En effet, il a totalement raison. Lambert Drainville, je te pose la question, puis je vais mettre en contexte justement nos deux sujets qu'on va discuter, c'est-à-dire loi sur la laïcité et le français boiteux de Michael Rousseau. C'est une semaine parfaite pour le PQ, crime. Deux chicanes avec le Canada anglais. On demandait pas mieux pour relancer le parti.
Ben, le parti est encore premier dans les intentions de vote.
Ouais, mais ça diminuait là, au niveau des intentions.
Ouais, j'ai hâte de voir bien honnêtement l'impact de ça sur la conjoncture politique québécoise à court terme. Je pense qu'elle n'aura pas d'impact jusqu'à temps qu'on ait un véritable jugement sur cette question-là. Et les chances sont très, très minces qu'on aura un jugement sur cette affaire-là d'ici à l'élection d'octobre.
Tu vois-tu, hey, je t'arrête deux secondes. Tu vois-tu un complot là-dedans qu'on ne l'ait pas? Le jugement avant les élections que le vote nationaliste.
Non, je pense que c'est une des décisions les plus importantes depuis certainement le rapatriement de la Constitution, mais peut-être de l'histoire de la Confédération canadienne. C'est rappel historique là, de comment ça a été mis en place en 1981, en 1982, c'est un compromis, dans le fond. C'est un compromis où Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque, souhaitait rapatrier la Constitution et insérer la Charte des droits et libertés canadiennes. Et plusieurs provinces étaient contre ce rapatriement-là et contre cette charte-là qu'ils jugeaient, et le Québec en faisait partie, mais plusieurs autres provinces aussi, elles étaient du nombre de 8 à être contre cette charte-là qui disait aller empiéter sur leur propre pouvoir. Et cette clause de dérogation, la clause de souveraineté parlementaire, a été le compromis qui a permis à Pierre-Éliott Trudeau et son gouvernement de convaincre toutes ces provinces-là, sauf le Québec, évidemment, qui n'a jamais signé la Constitution canadienne, de se ranger de son côté et d'accepter que, bon, ben, avec cette clause-là, dorénavant, les provinces, dans certains cas, auront le dernier mot. Et donc, les gens qui sont dûment élus par le peuple, dans certains cas, auront le dernier mot sur les tribunaux. Et on en est là aujourd'hui. Et là, c'est un petit peu cette décision-là de la Cour suprême. Elle est immensément importante parce que s'il advenait qu'on change ce qui est jusqu'à maintenant la jurisprudence sur cette question-là, c'est-à-dire ben on invoque la clause dérogatoire et les tribunaux, vous n'avez rien à dire pendant 5 ans, eh bien, on viendrait essentiellement changer le compromis dont je parle, qui est à la base même du texte fondamental qui régit nos droits et libertés ici au Canada. Alors, c'est une décision d'une importance capitale et un changement à ce niveau-là entraînerait des conséquences quand même majeures. Et certainement une réaction à ce moment-là politique au Québec qui dont la mesure demeure à déterminer, mais qui serait certainement très grande.
Fardel, t'es en accord?
Je suis en accord que c'est une décision importante. Je pense pas que ça va aussi loin que Lambert le présente. Parce que, tu sais, quand ça a commencé, là, en septembre de l'année passée, j'étais allé lire la position du gouvernement fédéral. Puis, j'étais allé lire le mémoire qu'ils ont déposé à la Cour suprême. Puis, quand je vois aujourd'hui la CAQ et le Parti québécois sortir, dire, le Parti québécois qui disait c'est le procès du Québec au grand complet, je pense que ça, c'est un monté en épingle. Qu'est-ce qui se passe pour de vrai, là? La position du gouvernement fédéral là-dessus, d'abord, le gouvernement fédéral ne s'oppose pas à la loi 21, ne se prononce pas sur la loi 21, il ne dit pas la loi 21 est correcte, pas correcte. Il n'y a rien là-dedans. Parce que la position du gouvernement fédéral, c'est de dire d'abord deux choses. Première chose, que si une province ou même potentiellement le gouvernement fédéral peut utiliser la clause dérogatoire pendant tellement longtemps que ça a l'effet d'anéantir un droit fondamental, c'est pas ça l'intention de la clause dérogatoire qui est supposée être limitée et doit être renouvelée tous les 5 ans. Alors, par exemple, la clause dérogatoire permettrait la censure des journaux si jamais un gouvernement provincial ou fédéral voudrait faire ça. Si tu fais la censure des journaux pendant 5 ans, on s'entend que la culture journalistique continue à exister. 5 ans plus tard, les journaux peuvent se rétablir. Mais si tu fais de la censure des journaux pendant 50 ans, le renouvelant à tous les 5 ans, ben la culture même, la capacité institutionnelle d'avoir un journalisme impartial cesse d'exister parce que la mémoire institutionnelle n'existe plus. Alors, la première position du gouvernement fédéral, c'est de dire renouveler une clause dérogatoire tellement longtemps qu'elle a un effet permanent sur la culture, sur la société, c'est contraire aux objectifs. Ça, je pense que c'est un argument plutôt difficile à tenir. J'ai comme de la misère à croire que la Cour suprême va pencher dans cette direction-là. La deuxième chose que le gouvernement fédéral demande, c'est de dire que oui, quand un Parlement, que ce soit une Assemblée nationale ou autre, invoque la clause dérogatoire, les juges ne peuvent pas prendre de décision en fonction des droits fondamentaux, mais ça ne devrait pas empêcher les juges de donner c'est quoi leur avis. Alors même si cet avis-là n'a pas d'effet légal, au moins, les juges vont pouvoir dire, ben, si c'était pas de la clause dérogatoire, voici comment on jugerait, voici ce serait quoi notre décision. Et puis ça, ben, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée parce que ça veut dire que quand va venir le temps de débattre dans les assemblées législatives, dans l'Assemblée nationale, si on veut renouveler la clause dérogatoire ou pas, ben, nous, en tant qu'électeurs et les politiciens, vont avoir plus d'informations. Ils vont savoir, si on renouvelle pas la clause dérogatoire, voici la décision que la Cour suprême nous a déjà dit qu'elle allait prendre. Alors, on peut prendre notre décision en pleine connaissance de clause. Ça nous donne plus d'informations. Ça, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, surtout que c'est pas écrit dans la charte nulle part que les juges n'ont pas le droit de donner une opinion, ça s'appelle, le terme technique, c'est une opinion obitaire, c'est-à-dire une opinion en passant, une opinion qui n'a pas d'impact légal, mais qui fait partie de l'opinion générale.
Qui amène à faire réfléchir.
Qui amène à faire réfléchir, c'est ça, qui est là pour informer le public. Il n'y a rien qui empêche ça de faire. Alors, l'idée que les juges ne peuvent même pas donner d'opinion là-dessus, ça se trouve pas dans la charte elle-même. Ça, c'est un développement de jurisprudence. Et je pense qu'en tant qu'électeur, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que les juges vont statuer sur une décision avant que je donne mon vote à un gouvernement qui promet de renouveler ou pas renouveler une clause dérogatoire.
Parce que tu vas avoir le contre-pouvoir, justement, l'opinion de ce contre-pouvoir-là qui est le pouvoir juridique.
Oui, surtout que la CAQ est en train de proposer dans son projet de constitution une espèce de conseil constitutionnel qui aurait exactement ce même rôle-là. Alors, on reconnaît que c'est utile à l'avoir. Ayons-le de la source qui va avoir la décision finale sur le tribunal, qui est le tribunal lui-même.
Est-ce que dans ce type de débat, on pousse des fois on pousse justement l'analogie un peu trop loin, puis je vous fais entendre Maître Frédéric Bérard, qui est l'avocat de la Fédération autonome d'enseignement, la FAE, qui craint l'arrivée d'un mini-Trump.
On est à un carrefour ici, actuellement au Canada, en matière de démocratie constitutionnelle. Si jamais il y avait un mini-Trump au Canada, tout ce qui se passe aux États-Unis, ou à peu près, pourrait se passer ici de manière parfaitement constitutionnelle, du fait de l'usage actuel et de la pratique des dispositions dérogatoires.
On fait-tu trop un plat avec Donald Trump par rapport justement au personnage qu'il est et aux craintes qu'on aurait de voir un Donald Trump arriver au Québec, Farnell, en premier?
Ouais, une chose importante d'abord, c'est que ce genre de plaidoirie-là, ça dure souvent 20 minutes, une demi-heure, des fois même une heure, puis sortir juste un extrait hors contexte comme les médias aiment faire pour faire du choc, c'est un mauvais service au public. Mais je pense que ce que M. Bérard est en train de dire, puis là-dessus, je veux dire, sans... La difficulté, c'est dès que tu parles de Trump, les gens perdent un peu la tête.
Ouais.
Mais ce qu'il dit fondamentalement, c'est que le Canada et le Québec, par notre ordre constitutionnel, on n'est pas à l'abri d'une prise de pouvoir par un premier ministre qui arrive avec un mouvement populiste derrière lui. Oublions pas, là, le gouvernement actuel qui a une majorité, donc qui a à toute fin pratique dans une culture actuelle le pouvoir total sur l'Assemblée nationale, a été élu avec 27 % des électeurs inscrits. Alors, c'est possible qu'un mouvement populiste qui n'a pas l'appui de la majorité, bien loin de ça, arrive à avoir un contrôle total sur l'exécutif, le législatif, sur nos lois. Et dans ce cas-là, si un tel mouvement populiste-là venait à arriver, il y aurait très peu de barrières qui l'empêchent de faire à peu près n'importe quoi. C'est ça le point, je pense, que M. Bérard est en train de faire. Est-ce que l'allusion à mini-Trump était mal placée? C'est sûr que ça spinne mal dans les médias, mais encore une fois, les avocats qui plaident à la Cour suprême ne sont pas en train de chercher une clip de 30 secondes pour passer dans les médias.
Je comprends, là.
Et je trouve ça... C'est pas pour rien que, justement, normalement, par exemple, ce genre d'audience-là n'est pas public, ou au moins, est pas, c'est public, mais n'est pas diffusé par les canaux. Parce que
c'est contraire à notre culture médiatique actuelle de chercher la clip de 30 secondes qui choque. Il faut voir ça dans son ensemble de son argumentaire.
Non, je comprends très bien.
C'est
ça bien nous mettre en garde, en effet. Lambert, t'en penses quoi, toi? Est-ce qu'on va encore pousser un petit peu plus loin pour être à l'encontre de cette loi, cette loi sur la laïcité au Québec?
Tu sais, on est dans un système quand même qui fonctionne quand même de façon... On est dans une société, puis il y a un système qui est à plusieurs niveaux très différent de celui dans lequel nos voisins du Sud fonctionnent. Et on a démontré... Écoutez, regardons juste les derniers mois, tu sais, Farnell parle de la Constitution, puis il y a plusieurs acteurs de la société qui se sont prononcés sur les risques... disons, d'effritement de la démocratie avec ces différents projets de loi-là. Ces contre-pouvoirs-là se sont exprimés, ont été entendus. Le mécontentement de la population également. Le ministre Simon-Jolin Barrette a même reculé sur la clause par rapport à l'avortement. Puis on l'a vu tellement souvent sur des décisions qui ont été prises par la CAQ où ils ont reculé suivant une montée de colère populaire. Que, tu sais, je comprends l'argument, puis est-ce que c'est absolument impossible qu'un jour, peut-être, ça arrivera, mais de faire la comparaison comme si on vivait dans le même type de société, dans le même type de système, je trouve que c'est pousser la note très loin. Et bien honnêtement, il y a des contre-pouvoirs au Québec. Les juges se sont exprimés à plusieurs niveaux et à plusieurs niveaux juridiques sur le bien fondé de la loi 21. C'est pas la même situation. Et la parole de la population, l'opinion des gens, ça, elle est prise en compte par les gens qui nous gouvernent. Et on en a de multiples exemples. Pensons au financement au niveau de l'éducation sur lequel le gouvernement a reculé. Il y a des exemples sans cesse. Alors de dire, bien, on va complètement changer le... Comment je dirais bien ça?
Le fonctionnement du gouvernement.
Ouais, le compromis qu'on s'est donné historiquement au Canada, qu'on va changer ce compromis-là et la jurisprudence qui vient avec, sur la base de peut-être qu'un jour, à un certain moment donné, il y aura une situation similaire à ce qu'on vit au Sud, alors que le système est complètement différent, et qu'à ce moment-là, la pression populaire et tous les contre-pouvoirs, soudainement, là, ne pourront plus faire leur travail et seront complètement mis de côté, et que là, peut-être, ça ira tellement loin qu'on ne pourra plus agir. Je trouve que c'est pousser la note beaucoup trop loin, bien honnêtement.
Quand tu dis qu'on change complètement la jurisprudence, je veux dire, moi, est-ce que je regarde la position du gouvernement fédéral puis des autres intervenants, je ne vois pas un si gros changement fondamental que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
En fait, ça dépend de la décision, Farnell.
Oui, mais je veux dire, si on regarde, par exemple, la position du gouvernement fédéral ou la position des autres intervenants gouvernementaux, là, je les vois pas demander qu'on mette au rencard l'ensemble de la clause dérogatoire. Ils prennent pas position pour dire que les gouvernements ne peuvent pas l'évoquer. Je vois pas un énorme changement proposé par les partis adverses, mettons.
Bien, encore une fois, ça dépendra de la position... De la décision qui est rendue éventuellement par la Cour suprême, mais même de dire on va laisser les tribunaux se prononcer en matière de droits individuels, alors que je trouve que dans ce débat-là, on parle beaucoup de droits individuels, je me fais la réflexion qu'on parle pas souvent de droits collectifs.
Les droits collectifs sont garantis par le fait que c'est la majorité qui tranche. Les droits collectifs sont rarement vraiment à risque dans une société démocratique.
Oui, peut-être, mais dans le sens, je pense que de dire, de simplement dire, on va laisser les tribunaux se prononcer sur une décision en disant, ça n'aura aucun impact sur le débat, ça n'aura aucun impact sur l'aspect politique de la chose, tu sais. L'arrêt Ford à 88 disait, ils n'ont pas le droit de se prononcer pour une durée de 5 ans. Et si le peuple le veut bien, c'est-à-dire si le peuple vote pour réélire un gouvernement qui dit, nous autres, on va la relancer, cette clause de protection-là, ce sera le peuple qui aura le dernier mot, encore une fois.
Mais tu voudrais pas, en tant que membre du peuple, savoir comment les juges vont trancher? Je veux dire, c'est juste ça qu'on propose, c'est que les juges peuvent dire, si c'était pas de la clause dérogatoire, voici ce serait quoi notre décision, mais on respecte la clause dérogatoire et puis on va pas appliquer cette décision-là. Moi, en tant qu'électeur, je veux avoir cette information-là.
De dire que ça n'aura aucun impact sur le débat politique, de dire du moment que les juges se prononcent sur ben voici notre opinion, puis quel droit et liberté on juge sont brimés, c'est faux de dire que ben ça dresse un portrait complètement objectif et on prend une décision là-dessus. Je veux dire, dans la société dans laquelle on vit, du moment que le droit d'une minorité est mis, disons, recule un minimum versus les droits collectifs que l'on a en tant que société, c'est très difficile pour un gouvernement de défendre ça, et on se rend compte que le narratif public puis les médias se mettent dans embarquent dans le lot et commencent à prendre le parti des minorités. Ça devient très difficile après ça pour ceux qui sont juste en train de dire ben moi je pense qu'on a choisi un modèle au Québec qu'on devrait le maintenir, de défendre ce point-là alors que c'est comme si le narratif populaire puis le narratif médiatique venait constamment prendre le bord des droits individuels sur lesquels la Cour suprême se serait prononcée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais
non, ça a un impact. Je le résume tout simplement, c'est qu'on a élu des politiciens pour qu'ils prennent des décisions en fonction justement de la démocratie, mais à l'ensemble de la province, en tenant compte de la majorité. Et ta crainte, Lambert, c'est de dire si on se fie toujours à la Cour qui prend des décisions pour des droits individuels, ben à un moment donné, il n'y aura plus de cohésion dans la société.
Oui, puis c'est comme de dire, du moment que les juges vont se prononcer, c'est comme si on venait dire, ben voici qui sont les bons et qui sont les méchants. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu, j'arrondis peut-être les coins, mais c'est un petit peu ça, comme ça que je le vois. Du moment que les tribunaux vont se prononcer, eh bien là, les gens vont dire « Ah ben, le gouvernement, s'il agit en défense des droits collectifs, il va nécessairement empiéter sur les gens de ces droits-là et c'est absolument épouvantable. » Et là, les médias vont embarquer là-dedans, le narratif populaire va devenir ça et ce ne sera plus un débat de société équilibré.
Oh, j'ai confiance en la société d'être capable de prendre des débats intelligents. Là, moi, j'aimerais juste avoir l'information de comment les juges vont trancher avant que je décide si on renouvelle ou pas.
Messieurs, merci beaucoup. C'était un excellent segment de discussion, débat entre Farnell, Morrissey et Lambert Drainville. C'est chaque vendredi à compter de midi jusqu'à vers 12h30. On parlera de Duolingo, Michael Rousseau plus tard. De toute façon, on en a déjà assez parlé cette semaine de cet anglophone qui se vantent de vivre en Montréal sans parler français. Lambert Drainville, toujours un plaisir.
Salut, Ben.
Salut. Farnell Morrissey, merci d'avoir été là avec nous.
C'est toujours un plaisir aussi,
de te parler à chaque vendredi. Ce qui va suivre dans un instant, Boulevard 101, à l'émission On en jase, Mathias Turcotte vient essayer de nous démêler l'annonce de Sonia Bélanger en santé aujourd'hui. Et par la suite, on va parler avec le docteur Pascal Renault qui travaille dans les urgences ici au Québec et qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens pour la région de Québec. Donc, il a assisté à l'annonce. Il suit présentement les fameuses séances là, de formation. Il n'est pas en ligne, il est en présence. C'est pas comme quand Christian Dubé faisait sa loi 2. Et il va nous expliquer. Lui, il me dit par texto, Pascal Cévin, hey, je trouve des affaires positives, Jeff. Ben, j'ai dit, oh, fort, tu m'expliques ça, moi, de l'extérieur, j'en vois pas.
Ben, je peux pas croire, en même temps qu'ils font une réforme à nouveau, ben, un genre de réforme, puis qu'il n'y a rien de positif. Fait que je suis bien content de l'entendre. Au moins, ça va être un peu moins mêlant.
Fait que Mathias Turcotte arrive avec ce qu'on a annoncé. Pascal Renault nous analyse ceci. C'est ce qui suit dans l'émission On en jase dans quelques instants. Et Pascal CV va nous informer sur les grosses nouvelles. Ça, c'est un line-up.
On en jase jusqu'à 14h.
Émission en jase, ton émission du midi où on te parle d'actualité, on analyse les grands enjeux politiques. On vient d'avoir une superbe discussion sur la loi sur la laïcité qui est débattue à la Cour suprême avec Farnell Morrissey et Lambert Drainville. C'est un segment qu'on fait à chaque vendredi de midi à 12h30. Sinon, c'est le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi. À Boulevard, on est 100% parlé la semaine, mais la fin de semaine. Et la fin de semaine, ça inclut le vendredi 18h. C'est le Garage à Dan. On commence le week-end en musique avec les meilleurs classiques rock. Dan Caron, la légende, qui est aux commandes de la console ici en studio à Boulevard 102-1. Samedi et dimanche matin, c'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot de 7h à 10h. Meilleure façon de se réveiller petit café, petite musique, chill, rock, tes meilleurs artistes. C'est vraiment du bonbon. Un show qui est numéro un chez la gente féminine la fin de semaine. Faut pas se le cacher. C'est de la bombe. B, le boulevard du rock de 10h à 15h. Dan Caron, la légende, qui est avec vous le samedi. Colosse qui est avec vous le dimanche. Et de 15h à 17h les samedis et dimanches, c'est les colosses du rock qui prennent place. Et là, Colosse nous a envoyé tantôt sa liste de chansons pour la fin de semaine. Un petit Toxicity de System of a Down qui va jouer. Ouf, du Disturb, ça joue pesant, mais pesant, entre 15h et 17h. En plus du meilleur rock, en écoutant BLVD 101 le week-end, tu pourrais gagner. Et ce que tu pourrais gagner, c'est tes billets pour les Remparts de Québec pour les premiers matchs de séries éliminatoires. Les Remparts, ça commence ce soir contre les Highlanders de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Mais ça se transportera au Centre Vidéotron mardi, mercredi et vendredi prochain s'il y a un match numéro 5. Alors, vous allez pouvoir gagner vos billets pour le match du 31 mars des Remparts au Centre Vidéotron en écoutant notre superbe programmation de fin de semaine. Pascal Sévet, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité avant que Mathias essaye de nous démêler ce que Sonia Bélanger a annoncé ce matin?
Sur l'heure du lunch, on avait un peu plus d'informations sur le chauffeur d'autobus qui s'est évanoui au volant de l'autobus scolaire rempli d'élèves. C'était sur la rue Sainte-Marie à Blacklight, dans le coin de Thetford Mines, à 7h30 ce matin. Autobus rempli d'élèves du primaire et du secondaire qui dévite sa trajectoire. On aurait eu un malaise du côté du conducteur. Alors, c'est ce qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça. On t'a ramassé deux véhicules qui n'étaient pas en route, plus un abri tempo. L'homme a été transporté dans un centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie. C'est sûr que là, les élèves ont été un peu paniqués de tout ça.
Dis,
donc, tous les élèves qui ont été évalués par les ambulanciers pour voir s'il y avait des blessés ou quoi que ce soit. Bien sûr, des dommages, mais matériels dans ces accidents-là. Faut dire que c'est une nouvelle qui se termine bien. Personne n'est blessé et tout le monde est en vie. C'est toujours un peu percutant de voir ce genre de nouvelles-là. Là.
Oui.
On a des nouvelles pour la guerre au Moyen-Orient. C'est l'Iran qui défie Trump et qui exhorte les civils du Moyen-Orient à s'éloigner des Américains. Bon, du côté de l'Iran, on accuse les Américains et Israël d'utiliser les habitants comme boucliers humains et comme monnaie de guerre, si on veut. C'est loin d'être terminé. Même si Donald Trump dit vouloir repousser encore son ultimatum, hein, repousse de 5 jours encore son ultimatum qui concerne l'attaque des centrales énergétiques en Iran, c'est complexe sur le terrain. Un avertissement des gardiens de la révolution du côté de l'Iran qui dit tout se passe très bien, on continue la guerre et c'est lâche, soit les forces américano-israéliennes tentent d'utiliser des civils et on ne va pas laisser faire ça et on recommande vraiment de quitter toute urgence les lieux qui sont stationnés près des groupes américains, alors que ce soit des établissements, des hôtels ou quoi que ce soit. C'est comme si toutes les cibles deviennent bonnes pour l'Iran en ce moment s'il y a quelque chose de patché américain ou israélien. Les dépouilles des deux pilotes d'Air Canada mardi dimanche dans une collision sur la piste de l'aéroport à LaGuardia à New York ont été rapatriées au Canada. Donc, le cercueil du copilote Mackenzie Gunter qui a été accueilli à Ottawa et celui d'Antoine Forêt qui a été accueilli vers Montréal. À Montréal-Trudeau, c'est des centaines de pilotes, des membres du personnel qui ont rendu hommage en bord de piste. C'était excessivement chaleureux et poignant de voir ça. Il y a des recours juridiques qui sont envisagés par les passagers blessés. Chacun pourrait recevoir environ 300 000 $ chacun. Et il y a des experts qui sont cités par Radio-Canada, comme quoi Air Canada et d'autres autorités pourraient être tenues responsables dans les 2 ans suivant l'événement. Des grosses enquêtes à venir. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, a poursuivi la ville pour des millions de dollars, mais on ne sait pas grand-chose. Pourquoi? Les documents sont caviardés. Donc, seuls des 13, des 39 paragraphes sont partiellement lisibles. Donc, c'est difficile de comprendre ce que veut M. Vaillancourt. C'est doléances. Même la somme qu'il réclame est caviardée. Par contre, on est capable, dans une note manuscrite à l'endos de la requête, de voir une réclamation d'environ 3 517 000 $, information qui a été recueillie par la presse. Et dans la requête, on souligne que le maire actuel de Laval, Stéphane Boyer, a fait des déclarations publiques il y a 2 semaines. Mais nous, on en a eu une ce matin. On les a contactés et l'attaché de presse me dit, par texto, que bon, le maire actuel de Laval n'allait pas donner d'entrevue ou quoi que ce soit. Mais voici le texte qu'on a reçu, une déclaration officielle. C'est une couche d'indécence qui s'ajoute à ce dossier profondément choquant sur les Lavalois. La dernière chose dont les citoyens de Laval ont besoin, c'est de se faire poursuivre par Vaillancourt pour être forcé par la Cour à payer de l'impôt sur de l'argent qu'il leur a volé. Je sais que c'est des gens qui travaillent activement à trouver une solution dans le dossier, mais cette action judiciaire ajoute à l'importance de régler rapidement la satisfaction des citoyens et de l'intérêt public. Une chose est certaine, je ne céderai pas aux menaces ni aux poursuites Bayon. Je vais continuer de défendre les Lavalois et les Lavaloises. c'était la prise de parole du maire de Laval, M. Bois, en ce moment.
Le maire Vaillancourt, on le rappelle, l'ex-maire Vaillancourt, lorsque l'UPAC est arrivé chez lui, sa femme flochait des liasses de billets dans la toilette.
Capoté, là. Ça, c'est resté dans notre imaginaire collectif.
Ouais.
Là.
Donc, imaginez la scène. Et là, plusieurs années plus tard, à peu près une quinzaine d'années plus tard, il poursuit la ville de Laval pour remettre de l'argent, pour remettre la main sur des millions de dollars qu'il avait acquéris sous le fruit de la corruption.
Gênant. Totalement gênant.
Je vois Mathias qui capote. Mais c'est ça. C'est ça, l'ex-maire Vaillancourt. Mais tu faisais un vox pop là à Laval, là. Puis là, il y avait de la corruption, OK? Puis TVA est allé faire un vox pop, là, tu sais, comme on fait là, dans le stationnement d'une épicerie. Là. Puis là, les petits messieurs disaient, ben alors, ouais, c'est le maire Vaillancourt, c'est présent. M'a voté pour lui. Mais tant que son boss. Le gars, ils avaient volé de millions de dollars, puis eux autres, mais tant que son boss.
Mais ça parle beaucoup sur les priorités de tous ces chacun. Tu sais, quand on touche à l'économie, là, les poches directes des gens.
Oh, il avait été arrêté par l'UPAC. Puis là, il posait la question. Le maire Vaillancourt, s'il se représente, même s'il a été arrêté par l'UPAC, allez-vous voter pour lui? Ben ouais, mais tant que son boss.
Mais je veux dire, non, mais c'est triste, ça. Ça montre à quel point les politiciens, en général, la population, on est tellement habitués d'être surtaxés, puis surtaxés. Puis c'est rare des politiciens qui maintiennent vraiment le niveau de taxe bas. Fait qu'eux, il y en avait un qui était un crosseur, mais c'est comme... Mais c'est tellement rare que ça arrive des politiciens qui disent « Hey, on vous augmente pas dans le tapis. »
C'est ça. «
Qu'on aime mieux le garder. » C'est ridicule,
c'est
là.
Ridicule, certain.
On s'en va en santé parce que c'est un dossier dont Mathias va nous tenter de nous expliquer, en fait, dans les prochaines minutes. Juste avant, il faut que je vous parle. Et là, lancez-moi pas toutes les tomates de la scène, ben là, d'un variant de la COVID-19.
Oh!
Tu ris, Mathias, je le sais. S'il vous plaît, c'est vendredi pour tout le monde, mais c'est un variant de la COVID-19 qui semble effectuer un retour en force. Et on dit que c'est bon, il y a eu plusieurs années qui sont passées sous le radar, mais là, il y a plein de médias américains qui reviennent avec ça, un peu partout dans le monde, notamment ici en Amérique du Nord. On voit, et avec les scientifiques, qu'il y a une hausse du nombre de cas du variant Omicron. Ça faisait longtemps. Hein? Mais là, il est surnommé Cigale. Et je ne vous parle pas du festival de musique à Baie-de-Beauport. C'est vraiment ce variant-là. Et en raison de sa résurgence, ben, il y a eu une hibernation qui a fait en sorte qu'on ne l'a pas été vraiment impacté par Cigale. Mais ça commence. Puis c'est une souche qui est fortement mutée. Donc, ça serait hautement contagieux.
Parfait. Steven Croiton, notre patron, ramène, s'il vous plaît,
les plexiglas!
J'ai peur!
Fait qu'on la surveille, OK? Voilà, information dite.
Excellent.
Vous êtes au courant.
Oui.
Mais on va terminer avec cette nouvelle réforme Santé Québec. Eh bien, Québec qui va lancer une nouvelle réforme. De la santé, on mise sur les CLSC et sur les technologies, dont l'intelligence artificielle. On veut améliorer l'accès aux soins de première ligne.
Et on en parle justement avec Mathias Turcotte, qui était à la conférence de presse pour lancer cette nouveauté, qui n'en est pas une parce qu'on ramène les CLSC qu'on a créé en 1974 puis qu'en 1994, quand le ministre Rochon a scrappé le système de santé au complet, avait mis à l'avant-plan, de Sonia Bélanger ce matin. Mathias, ton cerveau s'est-tu replacé, là?
Bien, il a fallu que j'analyse l'information pour que vous la présentiez, puis je me suis rendu compte qu'on a donné un gros titre pour quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, comme tu l'as dit. Là. La ministre Bélanger a tenu à le préciser. Ce n'est pas une réforme. Santé-Québec était une réforme. Là, on ne parle pas d'une réforme. On parle plutôt, et préparez-vous, de la première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne.
Est-ce qu'on a changé les termes parce qu'on sait que dans la population, ça va être mal accueilli? As-tu cette impression-là? Est-ce que moi, je l'ai?
Ouais. Moi aussi.
Mais j'aurais goût de te dire non, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment une réforme. On n'a rien qui change tant que ça. On n'a rien de nouveau. On fait juste prendre un système qui était déjà en place puis apporter quelques changements qui était déjà en place il y a 50 ans, mais qu'on a enlevé entre-temps puis qu'on remet là. C'est
exactement.
Ah, c'est le fun, on ne saigne pas du tout du nez en ce moment. Là.
Non, mais ben, c'est le fun, c'est un beau Back to the Future. Là. Ramenez-moi Michael G. Fox au Québec, s'il vous plaît. Mais sans blague, tu sais, Pascal, oui, on a changé. Puis je vais t'expliquer ma pensée, pourquoi qu'on a juste changé la terminologie. C'est que là, il y a quoi, 80 CLSC à peu près dans la province? On va monter ça à 214 pour avoir un meilleur service de première ligne. Fait que si de passer de 80 CLSC à 214, c'est pas une réforme, elle sait plus c'est quoi une réforme.
Puis là, t'en parles justement. Là.
Ton visage me dit que j'ai raison.
Ben, moi, je laisse ça sens.
T'en parles justement, puis je vais expliquer ce qui va changer justement pour que tout le monde comprenne mieux. Là. On parle des CLSC, qui est des centres locaux de services communautaires. Ces centres-là deviendront une porte d'entrée de première ligne. Donc, par exemple, vous avez un problème. Vous pouvez vous diriger, pas tout de suite, mais vous allez pouvoir vous diriger directement au CLSC pour recevoir de l'assistance pour ce problème-là. Mais là, on ne parle pas de tout type de problème. Par exemple, si c'est un rhume ou une maladie, ça reste les GMF ou encore l'urgence. Là, on parle vraiment de ce que le centre local de services communautaires traite. Donc, plus les services psychosociaux, les accompagnements à la maison. Je vais vous laisser la ministre Sonia Bélanger expliquer un peu plus dans le concret ce que ça va signifier pour la population.
C'est qu'on veut que les CLSC deviennent une porte d'entrée. Les CLSC actuellement ne sont pas une porte d'entrée. On veut qu'ils redeviennent une porte d'entrée pour l'accès. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une personne se présente en CLSC, il est accueilli, évalué, orienté. Par exemple, une personne âgée qui se présente en CLSC, qui n'est pas malade, qui n'a pas besoin d'aller à l'urgence, qui n'a pas besoin de voir son médecin, mais elle a d'autres besoins. Est-ce qu'on reconnaît que ça, c'est important? Mm-hmm. Elle fait quoi, les personnes âgées actuellement, qui auraient un besoin, en fait, quelqu'un qui serait seul?
Mais pas là, ça, c'est émotif.
Oui.
J'ai trouvé ça étrange, cette montée de son ton-là.
Mais je trouve ça très drôle qu'on arrive avec la solution des CLSC, puis pour pas dire décourageant, qu'on revienne 20 ans en arrière. Quand, souviens-toi, on a fait une entrevue, on a même fait 2-3 entrevues avec la docteure Emmanuelle Britton à Gatineau. Et le haut placé qui s'était fait tasser parce qu'il était contre Santé Québec au ministère de la Santé, Martin Forgue. Eux, qu'est-ce qu'ils proposaient? Puis il a fait des projets pilotes et ça fonctionnait super bien. La clinique, là, la GMF qui existe déjà, donc pas besoin d'en construire 100 quelques de plus, là, elle devient juste spécialisée en disant « OK, même principe, toi t'arrives à mon GMF, qu'est-ce que t'as besoin de quoi? » Mal dans le dos, moi. Bien, parfait, ça tombe bien. Je t'associe avec un physio, moi. Tu vas aller au physio. Et c'est l'infirmière praticienne spécialisée, la IPS, qui dit physio.
Qui est capable d'envoyer
le patient. On avait déjà un projet pilote de fait qui a super bien fonctionné dans plusieurs régions du Québec. Mais Sonia Bélanger arrive aujourd'hui et dit projet pilote-là qui a super bien fonctionné, que les médecins étaient d'accord, que tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Aux chiottes, on ramène les CLSC.
Puis ça, on n'aura pas de réponse à cette question-là. T'sais, Mathias, sur le terrain, n'a pas pu poser ça. Peut-être que M. Renaud, médecin Renaud, qu'on va recevoir dans quelques instants, pourra nous répondre là-dessus. Mais il y a des choses, je pense, que même eux ne saisissent pas, les gens sur le terrain.
C'est clair.
Puis, tu sais, la question revient par texto. Les GMF vont migrer vers les CLSC. La réponse est non. C'est ça l'affaire.
Non, c'est ça.
On n'envoie pas des médecins supplémentaires au sein des CLSC. On pourrait peut-être, dans les régions plus éloignées où il n'y a pas nécessairement de GMF accessible, avoir des médecins au sein des centres locaux de services communautaires. Mais pour une région comme Québec, c'est pas ça le plan. C'est de garder les GMF à côté.
Fait qu'on fait juste dédoubler le service de première ligne, puis fucker encore plus le patient. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête.
Savoir comment ça va s'orchestrer, mais une chose est sûre, c'est que dans le dernier budget, c'est 10 millions qui a été rendu disponible à Santé Québec pour remanier cette structure-là qui est déjà en place pour rendre plus de points de service disponibles.
Hey,
10 millions,
passant,
c'est-tu vraiment suffisant pour faire quoi que ce soit?
88-971-101. Vous êtes dans la santé, vous êtes utilisateur, vous êtes dans des CLSC, dans des GMF. Vous avez de l'information pour nous. Nous, on va vous considérer sur le terrain. Mm-hmm. Vous avez des choses, vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous trouvez que ça fonctionne à un point, à un autre, ça ne fonctionne pas. Écrivez-nous en ce moment, 88-971-101, ça va être hautement pertinent.
En effet. Christian Dubé fait une grosse réforme. Oui. Il a créé Santé Québec. Il s'est battu avec les médecins. Les médecins ont eu sa peau. Il est parti de la CAQ. Non, Sonia Bélanger, c'est-tu dit « je vais m'éloigner le plus possible de Christian Dubé » ?
Oui, ben c'est parce que cette réforme-là vient, je devrais dire, cette nouvelle politique-là, pas cette réforme.
Oui, oui, oui.
Vient,
utilise le bon terme, s'il
vient
vous plaît.
D'un rapport qui a été construit sur plusieurs années. Puis dans ce rapport-là, on dénonçait différentes choses. On dénonçait notamment la centralisation. Puis je tiens à préciser, s'il y en a bien un qui a fait de la centralisation en santé, c'est Christian Dubé. On peut penser seulement à Santé Québec, par exemple.
Exactement.
Nicolas Lachance, du Journal de Québec, a donc questionné la ministre sur cela. Je vous laisse entendre leur échange.
Ni la dérive centralisatrice en raison des deux réformes précédentes.
On mélange
de la CAQ de M. Dubé. Okay. Est-ce que vous essayez de vous éloigner de la réforme de M. Dubé avec cette politique?
Alors, écoutez-moi, aujourd'hui, je suis très contente. Je suis tournée vers l'avenir. On est en train de se doter d'une politique nationale pour les soins de santé primaire qui comporte trois volets.
Oui, je le répète, là, on est rendu avec ministère de la Santé, Santé Québec, les CIUS, les GMF, le CLSC.
Il y a quelque chose de vraiment qui me dérange beaucoup, 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 beaucoup. C'est rare qu'on va le faire, mais tu sais, t'as le contenu, mais là, t'as le contenant.
Ouais.
La manière dont elle répond, elle coupe la parole à un journaliste qui veut travailler pour le commun des mortels.
T'as raison.
Pour aller chercher les réponses aux questions, pour essayer de démêler tout
c'est
ça.
C'est un bon point.
Je trouve ça zéro, mais zéro contributif. Il n'y a rien là-dedans qui aide le monde. Là. Elle comprends-tu, Mme Bélanger, que devant elle, les journalistes travaillent pour faire comprendre son projet? Puis c'est la première chose qu'elle devrait vouloir.
Oui. En effet. T'as entièrement raison. Mais c'est ça, elle se tourne vers l'avenir.
Tu sais, quand t'es sa défensive d'avance,
ben, c'est ça.
Ça
t'attaques.
T'attaques
direct.
Ça parle-tu, ça?
Ben
peut-être
oui, ça
qu'il
parle.
Y a des choses
ben
pas
oui.
ficelées.
Puis,
ou...
puis au final, elle n'a pas du tout répondu à la question comme qu'on a pu l'entendre. Je veux dire, on critique beaucoup. Je veux quand même noter que de décentraliser de la sorte, d'offrir des postes de service accessibles plus facilement, du moins c'est ce qu'on promet, là, des postes de service accessibles plus facilement, c'est une bonne chose sur papier. Reste encore à voir comment ça
exactement
va fonctionner une fois dans le concret. Puis présentement, on a comme de la difficulté à comprendre comment ça peut bien fonctionner dans le concret.
Oui, puis la seule chose, moi, où est-ce que je me pose la question, c'est, je le répète encore, ministère de la Santé, Santé Québec, CIUS, GMF, CLSC, avant d'arriver au patient, hey, c'est 5 couches d'organigramme.
Ouais. Ben, c'est un peu pour ça qu'on fait ça, selon moi. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on a trop centralisé puis que le patient était plus capable d'avoir des soins accessibles. Fait que maintenant qu'on a trop centralisé, au lieu d'enlever certains organismes ou certaines entités, ce qu'on fait, c'est de dire, on prend toutes nos organisations, ils restent en place, mais vous allez être capable d'accéder à des soins directement à partir d'en bas avec des centres de cadre de services communautaires.
Dis-moi donc, est-ce que c'est un désaveu pour justement ces fameuses cliniques de première ligne, c'est-à-dire les GMF?
Oui, des groupes de médecine de famille qu'on nous avait promis comme étant une révolution. Même durant le point de presse, on a continué à dire comment on était envié partout au Canada pour ces fameux GMF-là. Par contre, dans le rapport qui a mené à la nouvelle politique qu'on a présentée aujourd'hui, il y avait un constat d'échec qui était noté sur le fait que les GMF n'avaient pas réussi à répondre à la demande. Justement, encore une fois, Nicolas Lachance du Journal de Québec a questionné la ministre sur cela. Je vous laisse entendre leur échange à nouveau.
Les GMF n'ont jamais été capables de prendre en charge malgré les milliards qui ont été mis et en salaire pour les médecins de famille et dans leurs infrastructures. Qu'est-ce qui explique cet échec-là?
Oui, mais en fait, j'apporte quelques nuances à ça. Là. Effectivement, dans le document, parce que vous savez, ça fait 2 ans qu'on travaille ce dossier-là. On a eu des avis de différents experts. Puis il faut voir que le document n'a pas été produit la semaine dernière. Là. C'est un document qui soulevait les différents enjeux qu'on avait. En réponse à ces enjeux-là, on renforce le modèle GMF. Il faut faire quand même attention, là, parce qu'on parle, oui, qu'il y avait des enjeux avec les GMF, mais c'est important de renforcer les GMF. Puis aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'on renforce les GMF.
Et donc, mec, on laisse entendre, Pascal.
Ben, le temps ne l'est pas du tout, mais c'est surtout, encore une fois, une non-réponse à une question.
Ben oui,
on
n'a pas du tout répondu à la question,
non,
encore une fois.
Exactement. Et pour en parler avec nous, justement, est-ce un désaveu ou non des groupes de médecins de famille? On a le président de la Fédération des médecins omnipraticiens, le président de la région de Québec, Pascal Renaud, aussi urgentologue dans la région de Québec, avec nous au bout du fil. Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien. Pascal, tu m'as dit tout à l'heure par texto que tu allais me rassurer parce que là, moi, je vois juste une couche additionnelle d'organigramme avec la réapparition des CLSC, cette réforme Rochon-là en 94-95 qui a scrappé le système de santé au complet. Donc, comment tu peux me rassurer aujourd'hui à 12h58 à l'émission d'Angers?
Oui, bien, je peux vous rassurer, là. En fait, c'est les territoires de CLSC qui est la clé là-dedans. C'est pas le bâtiment du CLSC là, qui existe actuellement. Demain matin, personne ne va se présenter dans un CLSC, dans la majorité des CLSC à Québec, puis s'attendre à avoir un médecin présent là. Donc, les groupes de médecine familiale font partie des territoires de CLSC. Puis, ce que ça donne de mieux, là, cette politique-là, d'après ce que j'ai entendu ce matin, puis je ne suis pas un grand expert de la politique, c'est la première fois que je la voyais moi aussi ce matin lors des rencontres, c'est que le patient maintenant va pouvoir s'adresser à un endroit, puis se faire orienter comme il faut vers la bonne personne. Ce que ça signifie, entre autres, c'est la fin un peu des pratiques en silo où la clinique médicale ne sait pas ce qui se passe dans le CLSC, ne sait pas ce qui se passe des organismes communautaires. Il va avoir un chef d'orchestre maintenant qui va pouvoir aider tout le monde à dire, ben, si mon patient a besoin de tel service, ben, au lieu de chercher dans le bottin et puis d'appeler toutes les ressources, ben, on en aura une qui pourra nous dire ben, « Appelez ici, puis maintenant, on va vous envoyer vers la bonne ressource. »
Oui, je comprends, Pascal, mais d'un autre côté, on a fait des entrevues, tu les connais bien, la docteure Emmanuelle Britton dans la région d'Outaouais et Martin Fogg, haut placé au niveau du ministère de la Santé, qui nous expliquait qu'il y avait eu des projets pilotes de fait, justement, dans des cliniques de médecine de famille où c'était l'IPS, l'infirmière spécialisée, qui dirigeait les gens, que ça avait super bien été. Donc, pourquoi pas avoir pris ce modèle-là?
Bien, il y a des infirmières de liaison. Hein. Ce n'est pas les IPS qui sont utilisées pour faire ça. C'est des infirmières de liaison qui aident à faire ce travail-là. Par contre, actuellement, il y a une certaine surcharge là, dans les, pour ces infirmières-là dans les GMS. Donc, d'avoir un point central qui permette à l'infirmière de liaison de faire un autre travail dans le groupe de médecine familiale va être encore plus intéressant là, pour les services-là.
D'accord, je comprends. Donc, pour toi, Pascal, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens, tu vois quand même du positif dans l'annonce de ce matin?
Oui, je vois du positif, mais comme je t'ai écrit par texto tantôt, je voyais du positif dans Santé Québec qui est installé au Québec. Puis après l'opérationnalisation de tout ça, j'ai été un peu déchanté. J'espère pas vivre le même problème avec cette politique-là. Puis déjà, j'ai déjà une petite déception là dans la rencontre médiatique qu'il y a eu suite à cette présentation-là. La ministre a mentionné que le budget qu'elle avait actuellement, c'était 10 millions pour faire ces changements-là.
Oui.
On s'entend qu'avec 10 millions à Québec actuellement, à part changer l'entête des CLSC, il n'y aura probablement pas beaucoup d'argent pour faire toutes les réformes qui sont super intéressantes à l'intérieur du projet. Donc, il va falloir que ça vienne avec plus de ressources pour la première ligne.
Vous avez entendu Mme Bélanger annoncer tout ça, parler de tout ça. Vous avez pensé quoi de la manière dont elle l'a fait? Les réponses aux questions qu'elle a offertes, la façon dont elle tente d'expliquer son projet?
J'ai pas malheureusement entendu l'ensemble là, de la rencontre parce qu'on était encore à se faire présenter par les sous-ministres et les autres personnes la politique de première ligne. Donc, j'ai juste entendu cet extrait-là où elle parlait de 10 millions. Donc, je peux pas le commenter sur sa présentation comme telle. Par contre, dans la politique, puis ce qui est bien d'une politique, c'est la première fois que le gouvernement du Québec fait une politique sur la première ligne. Donc déjà ça, c'est un grand gain parce qu'une politique, ça survit aux politiciens. Donc les prochains ministres qui seront là vont devoir se fier à cette politique-là puis aller dans les mêmes enjeux qui sont là. À moins de tenter de la modifier, mais c'est un travail important, ce qui risque de pas être fait par une nouvelle équipe. Puis, il n'y a pas une notion, je me suis souvent plaint là, sur vos ondes, qu'il y avait une durée là, électoraliste là, dans les politiques, dans les projets qui étaient faits au cours des dernières années. Mais ça, c'est une entente, une politique qui va voir là, le produit de ses fruits totaux, probablement dans 5 ans. Donc, il va probablement passer 2 gouvernements différents là, avant que les fruits de cette politique-là apparaissent. Par contre, la graine est semée. Puis on s'en va vers quelque chose de mieux si on réussit à appliquer tout ce qu'il y a dans cette politique-là.
Pascal Renaud, on termine cette entrevue. C'est le débat à la chefferie de la CAQ ce samedi dans la région de Montréal. Et une des thématiques sera la santé. Est-ce que tu souhaites justement qu'un Bernard Drainville ou qu'une Christine Fréchette se positionne en faveur de cette politique?
Oui. Puis non seulement se positionner en faveur, mais aussi nommer que ça prend des fonds supplémentaires pour la première ligne. Puis la première ligne, ce n'est pas que les médecins de famille. Hein. C'est tous les travailleurs sociaux en première ligne, les infirmières. C'est que les patients puissent bénéficier de ça. Puis partout dans le monde, il y a des études qui montrent qu'un investissement en première ligne améliore l'état de la santé de la population, diminue les visites aux urgences, diminue les hospitalisations, puis diminue les coûts en santé.
Pascal Renaud est président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps à l'émission d'En Jase. On te laisse retourner à tes devoirs.
Merci, bonne fin de débat. Bye-bye.
Merci, salut. Pascal Renaud, qui est président des médecins omnipraticiens de Québec. Donc, avoir une politique sur 5 ans, mais moi, je reste encore dans ma tête qu'on ajoute encore une strate puis qu'on va encore ajouter une complication pour le patient qui est déjà tout mêlé dans ce système.
Ben, juste, moi, mettons, ma médecin de famille, avec tous les revampements de ce qui s'est passé dans les derniers 5 ans, elle a changé 3 fois de place.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est correct, là. Je suis capable de... Je pense à une personne âgée. Je pense à une personne qui suit pas le fil. Je pense à une personne qui comprend pas les GMF, les CLSC, les urgences, qui cherche même où aller en premier lieu. C'est déjà complexe.
Ouais.
De vouloir revamper les choses, je le comprends. parce qu'il n'y a rien de beau dans notre système de santé, malheureusement, mis à part ceux qui y travaillent.
C'est,
c'est vrai pareil.
Oh, oui.
Sauf que de le faire d'une manière comme elle le fait, Mme Bélanger, moi, c'est la première fois que j'ai hautement de contestation face à cette dame-là sur la manière dont elle travaille. Tu peux pas arriver comme ça, comme un troc, pas répondre aux questions. Les gens veulent comprendre. On parle de santé. C'est émotif, c'est urgent, c'est important. C'est parfait s'il y a de la beauté là-dedans dans ce qui est revampé, mais est-ce que vraiment on va être plus efficace avec 10 millions de dollars? Ça, c'est un autre bon point.
Exactement. Puis moi, je suis très Thomas quand il dit « Ah, c'est pas quelque chose qu'on a fait sur le coin d'une table, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Les décisions de Christian Dubé, elle n'est pas dans ce sens-là. » Donc, ça m'étonne
on
beaucoup comme commentaire.
De M. Dubé, là,
exactement. 418-971-101, vous en pensez quoi présentement? Vous êtes pas mal en majorité à dire « Hey, boy, je ne sais pas ce que ça va donner ça, puis je suis pas très positif envers cette annonce-là. » Dans un instant, Boulevard 101, l'émission d'Angers, on parle avec Alicia Despins. Karine Gagnon m'a allumé sur quelque chose hier, Pascal. Okay. Elle a dit « Hey, Stéphane Lachance, là, il y a plus d'un million en budget de recherche. Faudrait bien qu'il l'utilise, c'est votre argent. » Alicia Despins était dans l'opposition officielle les quatre dernières années. On utilise ça comment, un budget de recherche à l'opposition à la Ville de Québec? Et évidemment, on va revenir sur le financement du tramway aussi. Faites un petit calcul de l'argent que le fédéral a. On est dans la merde, Pascal. On est dans le trouble.
Encore.
Ah, faut que je te le dise. On est dans grosse, grosse, grosse misère.
Encore.
Dans un instant. On en jase sur Boulevard 101.
95 $ aller-retour taxes incluses au départ de l'aéroport international Jean Lesage de Québec. Vous pouvez savourer une coupe de champagne dans toutes les classes, y compris en cabine économie. S'envoler en toute élégance. Air France. Réservez d'ici le 31 mars et voyagez du 12 juin au 6 octobre 2026, voir conditions sur airfrance.ca.
Votre salle de bain est restée figée dans les années 90 et vos planchers craquent plus que vos genoux? C'est le temps de rénover avant l'été. Passez chez Matériaux Audet Timber Mart. Ici, on a du choix à la tonne pour tous vos projets. Matériauxaudet.ca.
Le Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier revient en force pour sa 27e édition. Trois rodéos, mini-rodéos, derby d'attelage, tir de chevaux, spectacles musicaux gratuits et plusieurs nouveautés. Procurez-vous vos billets en ligne sur lepointdevente.com. Devenez super bénévole au rodéo-scjc.com.
Le printemps arrive. C'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, obtenez jusqu'à 1000 $ de rabais à l'achat d'équipements chez Enviro-Confort. Bénéficiez aussi des remises des manufacturiers ainsi que des subventions gouvernementales actuellement disponible pour un maximum d'économies. Thermopompe, chauffage, climatisation, économisez maintenant et soyez prêts pour l'été. Enviro-Confort, le choix des consommateurs numéro un en chauffage et climatisation.
Envie de repartir au volant d'un nouveau Volkswagen ce printemps? Chez Laval Volkswagen, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles. Avec un large inventaire prêt à partir, que vous cherchiez une voiture compacte, un VUS spacieux ou un modèle polyvalent pour tous vos déplacements, votre prochain Volkswagen vous attend. C'est le moment parfait pour changer...
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal CV. Jusqu'à 14h, on en jase.
13h11 minutes sur les ondes de Boulevard 101, l'émission d'En Jase, ton résumé d'actualité. Dans le prochain bloc, on parle de politique municipale avec Alicia Despins, notre chroniqueuse politique, et également du conflit en Iran avec Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. À la météo, moins 4 degrés ensoleillés, moins 17 cette nuit. Pauvres producteurs de sirop d'érable sont dans le trouble, pas à peu près que la température. On a fait une entrevue là-dessus dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Moins 5 demain, possibilité d'averse de neige, 0 nuageux pour dimanche. Pascal, il y a un Pascal qui fait parler de lui parce qu'il a confirmé qu'il se présente dans Jean Talon. C'est Pascal Paradis.
Ouais, ben c'est ça la nouvelle. Tu l'as tout dit.
Je l'ai tout dit. Pascal Paradis du PQ dans Jean Talon.
Candidature, oui, qui est renouvelée en fait pour les élections de 2026. D'après moi, il a aimé son mandat et il voudrait se faire réélire. C'est le Parti québécois qui a envoyé ce communiqué-là dans les dernières minutes.
Ça va brasser dans Jean Talon parce que les libéraux sont de retour en force aussi. Ça va être une course électorale très intéressante. On s'en va rejoindre de ce pas Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, dis-moi, à quoi ça sert un budget de recherche quand tu es dans l'opposition? Parce que là, présentement, quand j'écoute Stéphane Lachance, notre chef de l'opposition, il me parle d'un ingénieur qu'il a rencontré en quelque part qui dit « le tramway, ça n'a pas d'allure ». Il me dit « ça n'a pas de sens, il y a un complot, on annule mes rencontres ». Avec un million d'impoches, pourrais-tu m'amener de quoi de plus concret qu'un ingénieur rencontrant quelque part dans un endroit mystère à Québec?
Ben, c'est ça, on a l'impression qu'avec $1 million, mais il semble qu'on pourrait aller loin, là. Tu sais, toi puis moi, on se part un parti, puis on se staff, là. On est capable de trouver du monde qui ont du bon temps.
Il me semble que je creuserais beaucoup de dossiers à Québec, là. C'est pas comme s'il en manque.
C'est ça, puis tu sais, d'abord, de bien s'entourer. On parle de ressources humaines, d'abord et avant tout. Chef de cabinet, attaché de presse, des recherchistes, des attachés politiques, etc., qui font ce travail-là, qui vont fouiller, qui vont parler à du monde. Mais ça, tu as assez d'argent avec $1 million là, pour engager des gens de qualité. Les salaires sont basés sur les échelons des ressources humaines de la ville. C'est quand même assez compétitif. Mais après ça, tu peux aussi aller en contrat, aller embaucher des gens ponctuellement pour des contrats spécifiques. Tu peux réaliser des études, tu peux embaucher des firmes pour faire des sondages, toutes sortes d'affaires. Fait que ces gaffes récentes-là de Stéphane Lachance puis de Respect citoyen, bon, tu en as parlé, l'ingénieur, tu peux pas arriver devant des journalistes puis dire « j'ai une source qui me dit ça, mais j'ai aucune preuve puis je peux pas vous dire c'est qui ». Puis, je suis pas trop sûre non plus c'est quoi son titre exact ou son rôle. Ça vient décrédibiliser énormément cette prise de parole-là. Fait que là, s'il y avait quelque chose de concret là-dedans, bien, ça part en fumée. L'histoire des rendez-vous annulés, les accusations a priori là, qui étaient peut-être pas fondées envers le cabinet du maire, l'annulation d'une visite aussi, un petit peu plus tôt, on se rappelle, là, une visite d'un centre communautaire parce qu'il n'y avait pas été avec le cabinet. Fait que ces gaffes-là, moi, on commence à voir que ça va y coller à la peau si ils commencent pas rapidement à se professionnaliser.
C'est drôle de te dire dans ton temps, t'es tellement jeune, mais dans ton temps, toi, à la Ville de Québec, sur quoi on vous visait dans les enquêtes à l'opposition?
Sur quoi on nous visait, tu veux dire, dans les...
On faisait enquête sur quoi, là? Tu te rappelles de quel genre de budget qui a été octroyé pour enquêter sur quelque chose, pour être sûr qu'on fait notre travail d'opposition.
Ouais, ben c'est sûr qu'on faisait on le faisait pas mal plus à l'interne, puis faut se rappeler qu'avec Québec d'abord, avec deux fois plus d'élus que Respect citoyen, on avait juste la moitié du budget qu'il y avait. Parce que le maire Marchand a augmenté son budget de cabinet, puis le budget de l'opposition, il est basé sur ça. Donc, on n'avait pas nécessairement ces fonds-là pour faire des études énormément. De mémoire, on a fait quelques sondages là, sur les priorités des citoyens, puis des études sur la mobilité, mais rien de... pas des grandes affaires, là. Là, je pense qu'avec $1 million, ils ont cette capacité-là là, d'aller embaucher un ingénieur puis de faire l'étude qu'ils voudraient bien faire. Puis il est le temps, là, parce que ces études-là, ça se fait sur du long terme. Tu ne peux pas pondre ça en dedans d'une semaine. Là, on est fin mars, ça fait 5 mois qu'ils sont élus. Je pense qu'au niveau où on est, il aurait dû démontrer un plus grand niveau de rigueur, un plus grand niveau de professionnalisation. Puis moi, ça me questionne à savoir s'ils sont bien entourés. Mm-hmm. Est-ce que ce cabinet-là, il est complet? Puis est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont autour de la table qui sont capables de bien les accompagner stratégiquement à dire justement, bon, bien, là, en ce moment, il y a un intérêt pour les armes centenaires. Bien, on va demander à un spécialiste de se pencher sur la question, s'il en reste un qui ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Puis on va sortir quelque chose qui est concret, tangible, sur lequel les journalistes peuvent produire une nouvelle.
J'adore ce que tu amènes comme exemple et tu as tellement raison. Ça pourrait être la même chose pour le déneigement, sur les priorités, etc. Mais je vais m'en tenir à ce commentaire. Quand ton chef de cabinet est Éric Ralph Mercier, t'es dans l'invention d'histoire. OK, j'arrête là. Alicia, on passe à un autre dossier municipal, mais qui est pas mal le même, le tramway. J'ai fait un petit calcul, puis moi, je suis inquiet pour le financement, puis je t'explique pourquoi. Joël Lightman nous a dit, pour les 10 prochaines années au Québec, vous allez avoir 5,5 milliards pour du transport structurant. Fait que là, ça a l'air gros au début, 5,5 milliards. Mais je regarde, puis je me dis, OK, si on fait juste augmenter au niveau du gouvernement fédéral pour atteindre 40 % du 7,6 milliards. Et ça, c'est si ça reste à 7,6 milliards. La Ville de Québec vient prendre 30 % de ce budget-là. On ne prendra jamais 30 % du budget de la province.
Ben non. Puis ça, la Ville a toujours été claire là-dessus que s'il y avait, si le budget augmentait, la capacité de la Ville était limitée. Donc, elle peut rester à l'intérieur du 10 % de mémoire.
Oui, bien ça, Bruno Marchand, c'est un bon coup qu'il a fait. Il a signé un contrat, puis c'est 750 millions maximum que la Ville investit dans le tramway. Ça, c'est un très bon coup qu'il a fait.
Mais jamais tu peux demander à une municipalité dans un aussi grand projet structurant de venir augmenter son, son pourcentage là, de, du budget total. Là. Puis là, je sens que c'est fragile cette semaine. Là. On sent qu'il y a un mouvement pour essayer de faire la lumière finalement sur la situation financière du projet. On vient de parler de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, mais pour l'opposition aussi à Ottawa, c'est du bonbon tout ça, là, ben oui. D'avoir ces incertitudes-là. Tu sais, il y a du jus, il y a du potentiel de se faire du capital politique, puis sans réponse, sans entente, tu sais, sans réponse là, à la question que tu poses, sans entente signée, concrète, puis là qu'on dit « OK, l'argent elle vient de là, c'est parfait ». On est rassuré sur le fait que c'est pas la Ville de Québec qui va se retrouver devant le choix de, un, éponger le 30 % dont tu parlais ou abandonner le projet. Tant qu'on n'aura pas ça, ils peuvent faire plusieurs cycles médiatiques là-dessus puis continuer à miner la crédibilité du projet qui commence enfin, là, tu sais, qu'on ouais. commence à voir avancer là, après toutes ces années, hein.
Mm-hmm. Alicia, je termine avec toi. Alicia Despins, qui est notre chroniqueuse en politique municipale avec nous une fois par semaine à l'émission On en jase. Mais là, je veux te parler un peu de politique provinciale parce que ça touche quand même la région de Québec. On a eu une parachutée cette semaine. Elle est partie de Rimouski, puis là, ouf, le parachute a atterri dans la pelleterie. C'est Maïté Blanchette-Vizina. Elle était partie avec son habit de la CAQ. Elle l'a changé en indépendante, puis là, finalement, elle a mis l'habit bleu du Parti conservateur du Québec. Ça fait plein de sens. Mais bref, trêve de plaisanterie, je lui ai posé la question lors de l'entrevue qu'on a fait avec elle sur la réaction des électeurs à Rimouski parce que on avait beaucoup de textos de gens qui habitent à Rimouski, qui ont de la famille à Rimouski, qui disaient « Hey, le monde est en battance après elle ». Je te fais entendre l'extrait, puis par la suite, on la discute parce que il y a une pétition qui circule présentement à Rimouski.
Ben en fait, je veux les rassurer. Là, je continue de travailler à Rimouski. Puis tu sais, comme je vous dis, je vais commencer à aller à la rencontre des citoyens de la pelleterie, mais ma priorité demeure d'être députée de Rimouski là, jusqu'à la fin du mandat. D'ailleurs, aujourd'hui, deux pétitions qu'on a déposées, que j'ai déposées en lien avec des dossiers de Rimouski. Demain, ma question va toucher Rimouski encore. Puis, j'ai des questions à l'Assemblée nationale. Donc, je continue mon travail de députée de la circonscription de Rimouski. Et j'ai des rencontres avec des partenaires. Je continue à être à Rimouski là, jusqu'à la fin de la session puis la fin du mandat.
Quand on parle de bonbons pour les oppositions, la pétition qui circule présentement à Rimouski, une initiative citoyenne pour faire en sorte que Maïté Blanchette-Vizina soit obligée de démissionner, ça va être un régal pour tous les partis politiques à l'Assemblée nationale.
Ouais, c'est parce que là, tu viens cocher plusieurs cases. Il y a la case transfuge, il y a la case d'être parachuté dans une autre circonscription, puis il y a la case aussi de ne pas tenir ses promesses, parce qu'on se rappelle que la députée Blanchette-Vizina a assuré à de très nombreuses reprises qu'elle allait rester indépendante jusqu'à l'élection, mm-hmm. puis là, ben promesse non tenue, c'est pas le cas. Les transfuges, c'est très compliqué. On sait que les gens, ils votent très peu pour les personnes en tant que telles et pas mal plus pour les partis. Donc, il y a un sentiment quand même de trahison de la part des citoyens de Rimouski. Ça, je pense qu'on peut le comprendre très bien. Mais après ça, ça pose aussi des questions super intéressantes parce que c'est un cas incroyable d'études. Là. Il y a peu ou pas d'exemples récents dans ce genre-là. Les transferts, c'est une chose. Ça, on a vu dans les dernières années. Des ex-députés qui reviennent à la politique, mais dans une circonscription différente. Ça aussi, on a vu ça. On a vu Sébastien Proulx, qui mm-hmm. était député à DQ à Trois-Rivières, qui est revenu plusieurs années plus tard dans le cadre d'une partielle dans Jean Talon pour le Parti libéral. Mais là, qu'une députée ne se représente, mais pas à sa propre succession, c'est vraiment intéressant d'un point de vue démocratique puis de légitimité, parce que les électeurs de Rimouski, ils sont en droit actuellement de se demander si Maïté Blanchette-Vizina, elle les représente toujours à l'Assemblée nationale. Ce serait pas fou de penser que ses priorités, que son énergie les prochains mois, vont graduellement se déplacer vers les électeurs de la pelleterie.
Clairement. Donc, cette annonce-là, selon moi, aurait dû se faire en deux temps, c'est-à-dire Maïté Blanchette-Vizina qui transfère chez les conservateurs et après ça, proche de l'élection, qu'on arrive aux candidatures, qu'on annonce qu'elle est dans la pelleterie. Alors, ça va être très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Alicia Despins, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Il y a Conseil de ville mardi, donc on va se parler mercredi.
Oui.
Excellent. Bye. Salut, Alicia Despins, chroniqueuse en politique municipale, ex-conseillère municipale pour Vanier-Duberger. Toujours intéressant d'avoir son point de vue.
Nouvelle aussi à l'international.
Oui.
Jeff, c'est notre collaborateur régulier qu'on va accueillir dans quelques instants, mais il faut savoir que Donald Trump, lui, raconte des choses et d'autres.
Oui.
On sait pas c'est quoi le point. Trump. On sait pas c'est quoi le point au Moyen-Orient en ce moment. Mais surtout, dans les dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que l'Iran défie Trump et exhorte les civils du Moyen-Orient à s'éloigner des Américains. Ça veut dire que tu es un Américain, tu es en Iran, peu importe, ben, tu es maintenant un peu comme ciblé par les forces iraniennes, quel que soit ton statut, parce qu'on accuse les Américains et les Israéliens de servir comme des Iraniens comme boucliers humains.
Ouais. Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire, est avec nous au bout du fil. Éric, quoi penser de tout ce qui s'est passé cette semaine avec un Donald Trump qui est sorti lundi en disant « les négociations vont bien », qui est revenu en disant « finalement, je vais bombarder puis anéantir l'Iran ». Puis là, hier, qui a dit « bah, bombarder puis les sites énergétiques de l'Iran, ça va aller au 6 avril ». On est où dans tout ce chaos à la Donald Trump?
Oui, bonjour. Je pense qu'il y a un degré de communication entre l'Iran et les États-Unis. Il y a un degré de négociation, mais je pense qu'on est encore loin. M. Trump souvent se dépêche à sauter sur des avancées qui, en fait, disparaissent quelques jours après. Donc, il faudrait que je sois un petit peu plus patient. Mais on peut penser qu'il y a quand même un début de négociation, ce qui est une bonne chose.
Vous croyez ça? Nous, on a l'impression qu'on se tolère comme sceptique dans tout ça.
Ben écoutez, on parle de négociations entre des ennemis, là, pas entre des amis. Et mais l'Iran a donné quelques signes. Par exemple, M. Trump avait demandé de laisser passer 10 pétroliers comme un geste de bonne volonté. Et l'Iran a laissé passer quelques pétroliers bien choisis, là, il faut être clair, mais il en a laissé que certains passer. Donc, ça semble que les communications entre les deux sont encore ouvertes. On présuppose ces négociations avec un intermédiaire. Ça pourrait être le Pakistan ou la Turquie en particulier. Mais c'est mieux que c'était... C'est mieux cette semaine que c'était la semaine dernière, disons.
J'ai entendu des rumeurs comme quoi, pour laisser passer certains pétroliers, c'est 2 à 3 millions de dollars, puis ce serait un peu un point qui fait partie des ententes. Mais Donald Trump ne l'a pas évoqué. Est-ce que c'est gênant pour les États-Unis, ce genre d'entente-là qui vont avec une enveloppe monétaire?
Ouais, ben en fait, c'est du chantage, hein, écoutez, hein, y a rien d'autre que ça. Mais oui, il y a un navire qui a été chargé 2 millions de dollars américains pour traverser, je pense, un navire de la Thaïlande, si je ne m'abuse. Mais pour les États-Unis, oui, hein, bien entendu, c'est un petit peu humiliant, mais d'autre part, je pense qu'ils ont mal planifié leurs affaires, là, parce que l'Iran fermé le détroit d'Ormuz, c'était extrêmement prévisible. Et ils ont fait aucun plan, c'était gars ou rien, pas de plan sérieux. Donc, M. Trump est humilié, c'est un petit peu de sa faute.
Éric, tu es professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes, au Collège militaire royal du Canada. Tu es un stratège militaire. Pendant que les États-Unis négocient, selon Donald Trump, pendant qu'on tente justement de garder un climat un petit peu plus ouvert à la discussion, l'allié des États-Unis, Israël, lui, continue de bombarder l'Iran. Les gardiens de la Révolution continuent d'attaquer Israël. Ça aide en rien à régler ce conflit-là.
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut se rappeler que la relation entre adversaires Israël-Iran et celle entre États-Unis-Iran n'est pas tout à fait la même. Et je pense que malgré la situation complexe, c'est peut-être pas un empêchement complet aux négociations entre les Américains et l'Iran. Les négociations avec Israël vont être beaucoup plus tard. Israël est maintenant complètement engagé contre le Hezbollah au Liban, l'allié de l'Iran. Donc, il y a deux dynamiques qui sont différentes. Tu sais.
On peut s'attendre à d'autres frappes violentes, c'est ce qu'on comprend, parce que là, les Américains sont vus comme étant des ennemis sur le territoire qui utilisent les Iraniens comme boucliers humains. Hein, du moins, c'est ce que les communications iraniennes nous disent. Ça risque de brasser encore?
Ah oui, oui, non, ça c'est... écoutez, dans toute négociation, pour un cessez-le-feu, les combats continuent. Il y a d'ailleurs des films célèbres là, qui ont été faits, un qui s'appelait « Hamburger Hill ». pendant la guerre au Vietnam où on négociait le traité de paix, puis il y avait des combats absolument furieux. Donc, moi, il n'y a rien de nouveau dans tout ça.
Éric, en terminant, je vois présentement, il y avait Marco Rubio qui a donné un scrum aux journalistes et qui dit « la fin des opérations se fera d'ici quelques semaines ». Me semble que j'entends ça depuis le 28 février. Tu te positionnes où par rapport à ça?
Ouais, ben en fait, c'est... quelques semaines, hein, ça peut vouloir dire 3 ou ça peut vouloir 10, hein, c'est assez ouvert comme définition. D'une part, d'autre part, ben comme tout bon politicien, ils veulent pas se mettre dans se peindre dans le coin de la chambre là, donc ils se gardent la marge de manœuvre pour ne pas définir les choses de façon précise. Mais je pense que c'est certainement dans l'intérêt des Américains que le conflit ne continue pas trop longtemps. Ça, je pense, c'est clair.
Éric Ouellet, spécialiste en conflit militaire pour nous. Merci beaucoup de ta présence à l'émission On en jase. Et c'est clair qu'on se reparle la semaine prochaine parce que ce conflit-là va continuer.
Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci. Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal Canada. M'a surpris en me disant qu'il pense que Donald Trump négocie vraiment.
Moi aussi, honnêtement, de ce qu'on voit, ça a plus l'air de Donald Trump qui impose quelque chose, ouais, puis finalement, ça se rend pas. Puis, parce que tu te rappelles, là, tout ce qu'il avait demandé, ouais, à l'Iran versus 3 choses que l'Iran récoltait. Mm-hmm. C'est sûr qu'eux, le positionnement légal, ils vont refuser. Là,
mais tu sais que tout est dans tout. Hein? Je pense que le négociateur mystère de Donald Trump, c'est le même ingénieur mystère que pour Stéphane Lachance.
En tout cas, ça me surprendrait. Mais c'est pas drôle. J'ai hâte que ça cesse pour l'économie,
vraiment,
pour un peu tout le monde là-dedans, hein, parce que plus ça dure, plus il y a de nouveaux joueurs et plus tout ce qui est fragments de la géopolitique aussi s'intensifie. Puis pendant ce temps-là, en Ukraine puis en Russie, là, ça brasse, mais les yeux sont pas tournés.
Non,
vers, là,
du tout. C'est un détournement et Vladimir Poutine peut faire ce qu'il veut. Manchette dans un instant à Boulevard 102, ainsi que Gabriel Giguère. Pascal, une faible progression de 0,7% par rapport au PIB en économie au Québec. Ça va vraiment pas bien. Pourtant, on avait élu le parti de l'économie avec la CAQ. On en parle avec Gabriel Giguère dans un instant.
Arrête d'hésiter puis vis le présent. C'est le temps là, pas demain ni l'année prochaine. Parce que l'événement VIP de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, c'est du 23 au 27 mars. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air, chasse, pêche et camping présenté par Sport Chief avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air de la région revient au Centre de foire Expocité aujourd'hui jusqu'à dimanche pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse, de pêche, de bateau, de camping et plus encore. Pendant que vous y êtes, assistez à une conférence passionnante ou tentez de capturer votre première truite dans le bassin. Le Salon plein air, chasse, pêche et camping de Québec, aujourd'hui jusqu'à dimanche, au Centre de foire Expocité. Billets et informations au salonpleinairquebec.ca.
Depuis 1970, chez Matelas Dauphin, nous fabriquons au Québec des matelas de qualité exceptionnelle pour que nos clients passent de belles nuits. Présentement, nous liquidons les surplus de production et d'inventaire de nos matelas les plus populaires. Des centaines de dollars d'économies, plus taxes payées sur tous les matelas. Matelas Alcove, format double ultra confortable, en spécial à 599 $, taxes payées. Profitez de la liquidation d'inventaire dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Salut, c'est Joanie Fortin. Tous les lundis, 19h, je vous présente le balado Histoire d'entrepreneur. Pour cette nouvelle saison, j'aurai le bonheur de recevoir des entrepreneurs inspirants, des gens passionnés qui ont osé foncer, relever des défis et bâtir des projets à leur image. À travers leurs histoires, leurs échecs et leurs réussites, on plonge au cœur de l'entrepreneuriat humain, vrai et sans filtre. En ondes tous les lundis, 19h, sur Boulevard 102.1. En rediffusion sur YouTube, blvd.fm et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute et surtout, bonne inspiration.
Une présentation d'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Rencontrez-en un qu'il fera. Équipe marc-antoine-reed.com.
C'est pas pour rien qu'Abbas est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba. ABBA, une solution définitive.
Le patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos trois prix d'une valeur totale de 5000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du patron. Croquez pour le patron et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Depuis 100 ans, Juno et Frères est votre expert en peinture et décoration. Jusqu'au 23 mars, 50% de rabais sur le deuxième galon Régal Select et peinture à plafond Benjamin Moore. Juno et Frères sur Pierre Bertrand et nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Des bons VUS, il y en a plein. Mais il y en a un qui est juste mieux. C'est le Crosstrek 2026 à partir de 102 $ par semaine. Des bons concessionnaires dans le marché, ben, il y en a plein. Mais tant qu'à payer le même prix, pourquoi pas le prendre chez le concessionnaire qui est juste mieux? Ben ça, c'est Option Subaru. Option Subaru, c'est pareil comme ailleurs, mais mieux.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Vous rêvez d'habiter Montcalm? Les logements locatifs d'appartements urbains proposent un quotidien vibrant, près des cafés, des parcs et de la...
On jase!
Oui, on en jase. 13h36 minutes exactement. Je vous le rappelle, meilleure façon de nous écouter. Parce que je le sais, des fois, vous êtes sur la route, sur l'heure du dîner, vous allez faire des commissions, vous allez manger, et là, après ça, whoop, vous revenez au bureau, l'application Boulevard. Boulevard 101 sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-vous ça. Un petit écouteur dans votre oreille sans que le patron s'en rende trop compte. On écoute On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Après notre émission, comme à l'habitude, à 14h, c'est le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Et par la suite, le Garage à Dan, compte tenu qu'on est vendredi à 18h. Pascal, avant qu'on parle de cette performance économique très faible du Québec à 0,7% de croissance par rapport au produit intérieur brut, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ben, des centaines de Rimouskois veulent la démission de Maïté Blanchette Vézina. Ils sont fâchés, puis sont fâchés pour vrai, parce qu'ils en ont fait une pétition. Alors, c'est celle qui fait le saut dans le camp conservateur auprès d'Éric Duhaime. Ça a été annoncé cette semaine. Là, elle était indépendante depuis l'automne dernier. Elle se disait trahie par la CAQ. Elle l'a dit sur nos ondes, dans l'émission ici. Pétition qui a été lancée mercredi soir, c'est maintenant 1000 signatures. Depuis, pour Rimouski, quand même, là, c'est assez...
C'est, ouais, c'est un bon nombre.
...signatures pour éprouver et commenter le mécontentement. Alors, voilà. Pascal Paradis du Parti québécois va se représenter dans Jean Talon, communiqué qu'on a reçu dans la dernière heure. C'est officiel. Alors, pour les élections 2026, il va demander aux électeurs de lui redemander un mandat. Il sera dans une compétition assez féroce, comme tu l'as dit,
avec
Parti
les
libéral
libéraux.
Va revenir dans Jean Talon avec probablement candidat très fort aussi.
T'sais. Oui, exactement. Très hâte de voir la candidature des libéraux. Honnêtement, Pascal Paradis, c'est un député que j'aime bien, fait du bon travail pour sa circonscription.
Vous allez pouvoir reprendre la participation de Mathias dans notre émission ce midi parce qu'il est venu nous parler de Québec, la province qui va affilier chaque Québécois à un CLSC pour améliorer l'accès aux soins. On le porte comme ça. Est-ce que ça va arriver? Là, c'est là qu'on devient un petit peu plus... au niveau de la question, parce que ça semble pas encore super clair là, comment on va s'organiser. Mais chaque Québécois pourrait avoir accès à un centre local de services communautaires, les CLSC, que vous avez connus, oui, dans votre territoire pour prise en charge près du domicile. Et c'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui la ministre de la Santé annonçant la politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne. Sonia Bélanger n'était pas de bonne humeur dans son annonce, par exemple.
Non.
On pouvait constater qu'il y avait un drôle de ton, là. Puis on vous ramène au blvd.fm pour reprendre le dossier de Mathias un peu plus tôt à l'émission. Cette nouvelle réforme-là fait bien jaser. Les dépouilles des deux pilotes d'Air Canada sont décédées dimanche, vous le savez, dans une collision sur une piste de l'aéroport à LaGuardia, à New York. Eh bien, elles ont été rapatriées, les dépouilles, ici au Canada. Il y a le cercueil du copilote Mackenzie Gunter qui a été accueilli à Ottawa et celui du Québécois Antoine Forêt qui a été transféré à Montréal. Alors, à Montréal, Trudeau, c'était absolument touchant de voir des centaines de pilotes, des membres du personnel qui ont rendu hommage en bord de piste. Ça faisait mal même de voir que ça s'était arrivé. On a une enquête en cours pour comprendre les circonstances, mais il y a des recours juridiques aussi qui seront envisagés par les passagers blessés, jusqu'à 300 000 $ chacun qui pourraient recevoir. Il y a des experts qui sont cités par Radio-Canada qui disent qu'Air Canada et d'autres autorités pourraient être tenues responsables dans les deux ans suivant l'événement. Je vous rappelle, les passagers blessés pourraient aussi poursuivre l'autorité aérienne américaine et l'autorité aéroportuaire locale. Plus de 40 personnes qui ont été hospitalisées. Guerre au Moyen-Orient, eh bien, Donald Trump repousse de 5 jours encore son ultimatum concernant l'attaque des centrales énergétiques en Iran. Et sur le terrain, directement en Iran, on dit « Éloignez-vous de tout ce qui est américain sur le territoire. » On comprend qu'il y aura des frappes, qu'il y aura violence dans les prochains jours. l'Iran qui accuse les Américains d'utiliser leur propre peuple sur les Iraniens comme bouclier humain.
Et puis près de nous, Pascal, tu as parlé tout à l'heure avec Carl Ruel, qui est un ancien, justement, gardien de prison, je vais l'appeler comme ça, pénitencier de Donnacona. On l'entend dans le segment Open Mic, dans le Point de Max. Et vous avez parlé du rapatriement de Picturmel, parce que ça s'en vient.
Ça s'en vient. C'est encore nébuleux, mais on est vraiment là-dedans. Quantaise,
mais à un moment donné.
Puis on commençait à en jaser dans les médias aujourd'hui, à se dire, bon, comment ça va se passer, le rapatriement de Picturmel, parce que c'est pas facile dans nos prisons. Mm-hmm. Encore une attaque sanglante dans les derniers jours. Carl Ruel, tu l'as dit, ancien agent correctionnel. Puis j'ai posé des petites questions ce matin. Tu sais, entre autres, bon, c'est normal qu'on le rapatrie. Oui, il risque de côtoyer des membres des ennemis entre les murs de la prison, mais ça va être super réglementé. Il y aura peut-être des conséquences à son retour. Il y aura un encadrement hautement sécuritaire. T'sais, tout ça a été livré dans le Point de Max. Mais je voulais t'envoyer en clip. Donc, vous allez entendre Carl Ruel parler de pourquoi et comment ça va nécessiter plus d'encadrement et de sécurité que les autres détenus.
Avec le statut qu'il a, physiquement, il ne sera pas en contact avec personne de son entourage. OK? Ça, c'est... en tout cas, je suis pas dans le secret des dieux, mais ça serait la logique des choses, puis c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Il va probablement avoir aussi un encadrement au niveau de sa correspondance, soit le courrier, au niveau de ses appels téléphoniques, parce que ce qu'on veut pas non plus, c'est que ça nuise au déroulement des procédures. Puis, oublie pas, Pascal, qu'il peut aussi bien décider de devenir délateur.
Ça, c'est gros.
Il pourrait sauver sa peau comme ça.
Puis, c'est surprenant parce qu'une haute tête dirigeante d'un groupe criminel organisé, mm-hmm. c'est très rare que ça se transpose
exactement.
En délateur.
Là, il y aurait énormément de têtes qui tomberaient. Parlant de hauts dirigeants, on va aller parler de la CAQ et de son bilan économique parce que quand on a élu la CAQ en 2022, on a élu un gouvernement de comptables, un gouvernement de l'économie. Et Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal, je te demande, quelle est la note de la CAQ en économie?
C'est pas très haut, je suis même pas sûr que ça passe le D+, là. Si on passe, c'est ça
à
fesse.
Comment ça, c'est à cause de notre 0,7% de progression économique dans la dernière année par rapport au PIB?
Ben, c'est sûr que ça joue, hein? Surtout quand on se compare au reste du Canada. On est à 1,7% de croissance réelle du PIB, donc on comprend qu'on est bien en deçà. Ça fait mal, puis faut comprendre qu'il y a plusieurs éléments. Quand on regarde 2025, c'est en bonne partie lié à la question des tarifs douaniers. On le sait, le Québec, on a des grandes industries. L'aluminium, qui est touché par les tarifs douaniers. Le secteur du bois est également particulièrement touché, là. On a des tarifs douaniers de 45% sur le bois au Québec. Et même si on sait qu'il y a plusieurs exceptions dans le commerce, en fait, dans les importations américaines et donc des exportations québécoises, ben, le bois ne fait pas nécessairement partie de ça. Et donc, ils sont directement touchés pour l'année 2025. Là où c'est très intéressant, un rapport, oui, de Desjardins, mais aussi de la Banque nationale hier est sorti pour nous expliquer que, faites attention, là, oui, c'est plus bas en 2025, donc 0,7% d'augmentation, ce qui est famélique. Mais quand on regarde depuis 2022, 2023, 2024 et 2025, les quatre années, on est toujours dans une croissance du PIB au Québec qui est en deçà de la croissance canadienne. Et c'est là le problème. On a parlé, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a la question de la taxation pour les entreprises.
Vraiment?
Il y a beaucoup de taxes sur les entreprises liées à ce qu'on appelle la masse salariale, RRQ, assurance-emploi et autres. Mais il y a également toute la question de la croissance du secteur public où on l'a vu depuis 2022, même 2019. C'est le secteur public qui est responsable de la création d'emplois. Donc, au final, on voit une croissance économique qui est pas bonne. Et malheureusement, le gouvernement Legault a voulu jouer, en quelque sorte, le maestro de la croissance économique, mais il n'a pas la capacité de le faire. Et on le voit, c'est une énième démonstration de la chose.
Gabriel Giguère, on s'en va en campagne électorale dans peu de temps. Qu'est-ce que les partis politiques doivent nous promettre pour relancer notre économie?
Bien, deux, trois choses. La première des choses, nous dire on va réduire les impôts sur les entreprises pour devenir plus attractif. En contrepartie, on réduit les subventions. Ce que ça veut dire concrètement, c'est d'arrêter de penser que le gouvernement puis l'État ont la capacité de choisir le gagnant et le perdant. Pensons à Northvolt, Lyon Électrique et autres, ils n'ont pas la capacité. Ça prend de l'humilité. Malheureusement, c'est rare que les politiciens en ont. La deuxième chose que j'aimerais voir, mais que malheureusement on réitère hier ou avant-hier, que c'est pas le cas, c'est de voir le Québec exploiter ses ressources naturelles. le fameux gaz naturel. Ça crée de la prospérité. On le voit en Alberta. Ils sont capables d'avoir de l'argent avec ça. Je pense qu'on pourrait également le faire si on avait un bon cadre réglementaire au lieu de l'interdire.
Oui, parce que là, il y a une motion à l'Assemblée nationale et on a dit « on n'en veut pas de gaz de schiste ».
Il y a une motion qui a dit ça, mais on voit une évolution. En 2022, c'était unanimité contre. Là, on est rendu avec trois personnes qui sont pour l'exploitation. Évidemment, je fais des blagues, là, mais pour dire qu'il y a une déconnexion complète au sein de l'Assemblée nationale avec ça. Quand on demande à la population, voulez-vous exploiter le pétrole, voulez-vous exploiter le gaz, c'est toujours une majorité là, qui est en faveur par rapport à ceux qui sont en défaveur. Donc, ça, il va falloir que ça évolue également pour s'assurer qu'on crée de la prospérité. À la fois sur le plan de la réduction de la pression fiscale qui sont les impôts sur les entreprises, sur notre développement des ressources naturelles. Puis avec ça, je pense que le Québec pourra aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Puis on aurait cette conversation-là dans quelques années. On se dirait pas, ben le Québec, on a eu 0,7% de développement économique cette année.
Donc, Gabriel, en terminant, moi, je donne la note de E avec ce que tu m'as dit à la CAQ pour les quatre dernières années. Est-ce qu'il y a un parti politique qui t'allume plus au niveau économique à quoi, 6 mois de l'élection?
C'est ça le grand point, c'est le dernier point. À 6 mois de l'élection, j'ai hâte de voir les plateformes politiques de l'élite puis de me dire « Ah, ça c'est intéressant, ça c'est les moins ». Quand je pense, par exemple, au Parti québécois, on a parlé de la réduction des subventions. C'est super. Qu'est-ce que le Parti libéral du Québec propose? Évidemment, quand on regarde les politiques publiques du Parti conservateur du Québec, on est davantage vers une proposition d'exploitation des ressources naturelles. On l'a vu notamment avec la nouvelle députée du Parti conservateur, Mme Vézina, qui a voté en faveur, ou plutôt contre la motion, donc par extension en faveur, au moins d'avoir un débat sur l'exploitation du gaz naturel, voire des hydrocarbures plus largement. Donc, il va falloir qu'on aille vers ce type de proposition de politique publique-là en faveur du libre-marché, mais c'est surtout ça à la base. Il faut que les partis politiques comprennent que ce n'est pas le gouvernement qui va développer l'économie. Le gouvernement, son rôle, c'est pas de jouer au hockey, c'est de s'assurer là, que la glace est lisse, puis qu'il y ait des bons arbitres. Ça veut dire un bon cadre réglementaire et un bon cadre fiscal.
Gabriel Jugard, on aurait dit que tu savais ce qui s'en vient dans l'émission, parce qu'on termine l'émission en ce vendredi en sport avec Alex Laramé. Dans un instant, on revient sur cette victoire du Canadien de Montréal. Puis qu'un pour te faire plaisir, Gab Jugard, je te fais entendre ça.
Wilson qui traîne un peu Coyle, passe du revers en direction de Evans. Evans, bonjour!
L'ex-vedette des remparts a été la première étoile du Canadien. Hier, on en parle avec Alex Laramé au retour de la pause. Gabriel Jugard, bon week-end!
Bon week-end!
Grégory Charles.
Grégory Charles, le musicien?
Oui, c'est lui qui m'a appris à jouer du piano. Je voulais avoir une base parfaite.
Recevoir des conseils de professionnels pour atteindre nos objectifs, c'est ce qu'on veut. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne nos avoirs. Chez Desjardins Gestion de patrimoine, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Moreau PRS poursuit sa croissance. En plus de sa succursale de Québec, une toute nouvelle place d'affaires ouvrira bientôt sur la Rive-Sud. On vous attend au début avril à Lévis. Moreau PRS, 40 ans d'expertise. Et maintenant, encore plus près de vous.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Une salle de bain complète pour moins de 2000 $ chez nous, c'est possible. Passez vous inspirer de notre nouveau showroom avec nos salles de bain modèles. 90-30 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. Tel qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Du 3 au 6 avril, célébrez Pâques en famille au Moulin des Jésuites de Charlebourg. Au programme, après-midi de tir d'érable, atelier de confection de pain à l'érable, veillée de danse traditionnelle québécoise et plus. Réservez votre place dès maintenant au moulindesjésuites.org.
Multiconfort FP vous rappelle que c'est le moment de vous préparer pour la chaleur de l'été avec 15% de rabais sur les installations. Financement disponible. Cet été, choisissez le confort, choisissez Multiconfort FP. Multiconfort FP en face de l'aéroport. Multiconfort
FP. Savez-vous pourquoi les gens aiment tant recommander Promutuelle Assurance? C'est entre autres pour la qualité de leurs conseils.
Et puis pour leur bon prix aussi.
Ah!
vous leur avez parlé récemment, vous.
Hey, tu dis, toi. Ça a tellement bien été, là. Mon auto est assuré comme faux, mon homme.
Ah, c'est parfait, ça. Vous allez pouvoir les recommander.
Ah, ben, c'est ce que je fais, là.
Merci beaucoup. Ah, on fait ça ensemble. Pour un service de qualité...
Puis des bons prix.
Choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Sont forts.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Plongez dans la jungle avec Papillon en fête chez Jardin Amel. Une serre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable à vivre en famille jusqu'au 29 mars. Ouvert cette semaine de 9h à 16h30 et ce week-end de 8h à 17h30.
Le samedi 28 mars à 14h, ne manque pas le défilé de la Saint-Patrick, un événement gratuit et unique. Fanfare, animation et groupe de danse sur place. Départ sur l'avenue Cartier jusqu'au Château Frontenac. Le défilé de la Saint-Patrick, une collaboration de la Ville de Québec, du Château Laurier et de La Souche.
Le printemps arrive chez Lévis Ford. Pour un temps limité, à l'achat d'un véhicule neuf, recevez un plan d'entretien gratuit, incluant vos deux premiers changements d'huile et les permutations de pneus. Passez-nous voir dès aujourd'hui chez Lévis Ford, les forts de Lévis.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
On en jase et on va terminer ça comme à chaque vendredi en jasant de sport, Pascal CV, et du Canadien de Montréal. Alex Laramé, mon Zach Bolduc a marqué le but gagnant hier après 34 matchs sans marquer. Es-tu d'accord avec Pierre Houde et Marc Denis qui ont dit « Il a tellement traversé cette séquence-là avec maturité qu'il méritait enfin ce succès. »
Ben oui, puis Martin Saint-Louis, on a parlé souvent justement des performances de Bolduc. Il disait qu'il trouvait que son ardeur au travail était là, son éthique de travail était là, c'était juste qu'il n'était pas récompensé sur la feuille de pointage. À un moment donné, c'est un peu la loi de la moyenne. Là. Il s'est fait voler un but littéralement contre les Highlanders, puis là finalement, il met un tir... dans la lucarne, puis c'est très bien mérité pour Zach Bolduc qui est enfin récompensé.
Le Canadien n'a pas nécessairement été la meilleure équipe sur la patinoire cette semaine, et contre les Hurricanes, et contre les Blue Jackets, mais s'en sortent avec deux victoires. Est-ce que c'est joué avec le feu ou c'est signe d'une équipe qui est à maturité?
Non, moi, tu l'as dit, là, ça n'a peut-être pas été les meilleures performances du Canadien, mais moi, j'ai particulièrement aimé contre les Hurricanes. Je veux dire, la première période, c'était catastrophique. Mm-hmm. Les Hurricanes étaient partout, on était nulle part. Mais tu vois que les gars, ils ont des nerfs d'acier. Pas inquiété du tout. On est revenu de l'arrière dans ce match-là. Marque 5 buts sans réplique. Fait que non, moi, je suis pas trop inquiet. Je trouve au contraire que ça montre que mentalement, on se laisse pas désarçonner par des mauvaises performances, par une mauvaise période, puis on est capable de revenir de l'arrière. Puis ça, c'est super important en vue des séries.
Deux matchs ce week-end à Nashville, samedi en Caroline, dimanche. Les Prédateurs de Nashville ne sont pas une proie facile. Ils sont présentement installés au dernier rang des équipes repêchées dans l'Ouest. Steven Stamkos s'y remet à marquer des buts. Tu t'attends à quel type de fin de semaine à l'étranger pour le Canadien? Deux matchs sur la route, deux de cinq, car c'est un voyage de cinq matchs qui les attend.
Ouais, exactement. Ça sera pas facile en fin de semaine. Surtout dimanche, là, dans un lendemain de back-to-back en Caroline. On a battu la Caroline cette semaine. Habituellement, on voit des splits dans ce temps-là. Donc, moi, selon moi, le Canadien doit aller chercher les deux points contre les Predators parce que dimanche contre la Caroline, je veux dire, ça sent la défaite jusqu'ici. Là, je veux dire. Ouais. Ça devrait pas être une grande performance du Canadien, surtout à l'extérieur. Là. Faut aller chercher les deux points samedi contre les Predators. Je te le dis, ils sont sur une bonne séquence, mais je pense que si on regarde les formations sur papier, le Canadien est quand même supérieur.
Victoire des Islanders hier, victoire des Pingouins, défaite des Sénateurs en tir de barrage, défaite des Blue Jackets de Columbus à Montréal. Qui va faire les séries? Il y a deux places pour ces quatre équipes-là, selon toi.
Ben écoute, moi je regarde la tangente en ce moment. Les Sénateurs d'Ottawa, je ne miserais pas contre eux. Hein. Moi, je pense que les Sénateurs vont réussir à se faufiler en série. Puis personnellement, je pense que les Bruins de Boston ont ce qu'il faut. Moi, je vois les Islanders puis Détroit. Le Détroit, je veux dire, c'est la descente aux enfers. Là. Il n'y a plus rien qui va de leur côté. Là. Je veux dire, c'est Yzerman, d'après moi, il va se faire questionner pour son emploi cet été si jamais son club ne fait pas les séries. Mais en ce moment, moi, je dirais que Ottawa, ils ont le vent dans les voiles. Ils ont des jeunes qui arrivent, des mineurs qui performent bien. Puis Boston, difficile de miser contre Boston. Année après année, ils sont toujours là. Donc, j'irai avec ces choix-là. Puis Columbus, Pingouin, selon moi, ça va rester là du côté de la métropolitaine.
C'est des très bons choix. Alex Laramé, on se reparle lundi après ce gros week-end du Canadien de Montréal. Je te souhaite beaucoup de hockey, beaucoup de bonheur, puis une coupe de petites bières en fin de semaine.
Ah, certainement, on se reparle lundi.
Salut Alex Laramé, à lundi. Pascal CV, c'est déjà tout pour nous. Pour cette semaine de radio, l'émission Nageurs, c'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même avec Denis, Véro et Audrey. Nous, on reprend le collier lundi à midi.
Sans faute.
Je te souhaite un bon week-end.
À toi aussi.
Merci, salut.